Commencer Bezrat Hashem, Perekret, du positif. Le huitième chapitre de Egaret Hatshuva. Bezrat Hashem. Du positif, bien sûr, du positif. Donc on en est dans le Tanya maintenant. Dans les premiers chapitres, trois premiers chapitres du Tanya, Egaret Hatshuva, on a expliqué la teneur de la Teshuva sous le plan halachique. D'accord ? Donc qu'est-ce que c'est la Teshuva ? Et comment les... À quoi servent les sacrifices et comment les sacrifices ont été remplacés par les jeunes, par la tzedaka, etc. Donc tout l'aspect halachique de la teshuva. À partir du chapitre 4, on a essayé de s'arrêter sur l'aspect profond de la teshuva, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe derrière les coulisses lorsqu'on fait teshuva. Donc pour expliquer ça, on a dû expliquer d'abord qu'est-ce que c'est le juif, qu'est-ce qu'un juif, le rouage, comme on l'a dit, qu'est-ce qu'un juif, comment un juif a été créé différemment, il a été insufflé. D'accord, il a été insufflé, donc il a été créé différemment que tout le monde. Et donc du coup, puisqu'il a été créé différemment, donc il ne tourne pas avec les mêmes techniques. Ça veut dire que lorsqu'un juif fait une mitzvah et lorsqu'un non-juif fait une mitzvah, c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. D'accord, ça n'a rien à voir parce qu'ils n'ont pas été créés de la même manière. De la même manière pour l'averot. Lorsqu'un juif fait une avera, ça n'a pas la même gravité, c'est beaucoup plus grave qu'un non-juif qui fait une avera. Non pas que le juif est plus important. D'accord, c'est pas ça ce qu'on veut expliquer. Simplement qu'ils ont des responsabilités différentes, qu'ils ont été conçus à la base différemment. Donc suite à ça, on a expliqué dans le chapitre 7 que maintenant qu'on a compris le rouage, qu'on a compris que dans le rouage un juif est différent, donc normalement ça devrait nous aider, nous faciliter à faire teshuva, puisqu'on comprend le rouage, on comprend que c'est très important, donc ça devrait nous faciliter à faire teshuva. Dans les faits, dans la vie de tous les jours, on voit que même si on assiste à des cours dans lesquels on nous explique qu'est-ce que c'est la teshuva, on nous explique l'enjeu, on nous explique tout ça. Dans les faits, on voit que ça ne passe pas, qu'on a des blocages. Et donc là, dans le chapitre 7, Perek Zayin, on a expliqué les deux raisons principales de ce blocage. Qui se rappelle les deux raisons principales de ce blocage? Alors, petit calepin. Donc on va dire, moi je vais les dire rapidement. Petit A, petit B. D'accord? Deux raisons principales. Et ça je pense, non. Ça c'est la deuxième. Ça c'est deux raisons auxquelles on devrait réfléchir tous les jours. Et là, il le parle par rapport à Avodat Hashem. Mais si on réfléchit bien, on peut appliquer ce principe-là à la vie de tous les jours. Envers son patron, envers sa femme, envers ses enfants, envers qui vous voulez. La raison pour laquelle on veut faire quelque chose et on n'y arrive pas, c'est pour les deux raisons qu'on a citées dans le chapitre 7. C'est quoi les deux raisons? Raison numéro 1 qu'on a citée, c'est parce qu'on ne réalise pas l'enjeu. Bonsoir.
J'ai perdu mon calepin.
Bien bronzé, Baruch Hashem.
Bravo.
Bien, il est temps.
Merci.
Bonsoir. Donc on a expliqué deux raisons qui expliquent. Comment tout le monde revient en bonne santé? Il n'y a pas de pied cassé, il n'y a pas de... D'accord. On te racontera. Donc je suis en train d'expliquer...
T'as mal choisi ta semaine.
Je suis en train d'expliquer que on a expliqué dans le chapitre 7 que si on n'y arrive pas, que bien qu'on comprend, on comprend, pourtant on n'y arrive pas, il y a deux raisons principales. C'est soit l'une, soit l'autre, soit les deux ensemble. Et en général, d'ailleurs, c'est les deux ensemble. C'est quoi les deux raisons? Première raison, c'est que on réalise pas l'enjeu. C'est-à-dire qu'on vient à des cours, on comprend que c'est important, on saisit que c'est important, mais on réalise pas l'enjeu. C'est-à-dire on n'essaye pas de s'imaginer, d'utiliser son imagination pour dire, mais attends, tu t'imagines ce que ça veut dire? Pour les choses qu'on a envie, on prend le temps de s'imaginer, par exemple. D'accord? Quand vous savez que vous allez en vacances, vous allez prendre le temps d'imaginer vos vacances.
Par exemple.
On va prendre le temps d'imaginer ses vacances. Pas simplement, je vais aller dans un hôtel et c'est fini. Attention, il y a des mitzvot ici. Je dois aller, c'est pas n'importe quel hôtel, c'est pas n'importe quel nombre d'étoiles, c'est pas n'importe quel endroit, c'est pas avec n'importe quelle personne. Tout se calcule. Pourquoi? Parce qu'on comprend l'enjeu. On s'imagine l'endroit où on va aller. Ça, c'est la première raison qu'expliquait Admon Razaken pour laquelle on voit que même si on comprend que c'est important, mais pourtant, la vie ne change pas parce qu'on comprend pas l'enjeu. Les choses qui nous intéressent vraiment, on essaye de réaliser l'enjeu. Ça, c'est un premier point. Donc il faut passer du temps pour ça, pas de secret, il faut passer du temps pour essayer de réaliser l'enjeu du mitzvah, l'enjeu du navera, l'enjeu de l'éducation, l'enjeu du shalom bayit, l'enjeu de tout ce que vous voulez, l'enjeu, en quoi ça me concerne, en quoi c'est très important, en quoi le monde va changer. C'est pas simplement est-ce que je dois le faire ou je dois pas le faire, c'est en quoi le monde va changer, mon monde va changer, le monde va changer. Ça c'est le premier obstacle. Deuxième obstacle expliqué à Admon Razaken, c'est l'ego. Ça c'est la deuxième raison pour laquelle même si on comprend parfaitement, et même on comprend l'enjeu, pourtant, on a quand même du mal à faire les mitzvot et à ne pas faire la vérande. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ego. Et l'ego qui te dit, c'est pas bien, et alors? J'ai pas envie. En d'autres termes, ça veut dire quoi, j'ai pas envie? On a eu un cours dans lequel on a expliqué, donc il y a 2 semaines, et la semaine dernière, on a expliqué la teneur de l'envie. On a expliqué que l'envie, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement, qui dépasse la logique. C'est-à-dire que tu peux avoir une personne qui sait que c'est pas bien, et il fait quand même. Pourquoi? Parce qu'il veut. Donc, dans la deuxième étape, et c'est pour ça qu'on a pris un peu des claques la semaine dernière et la semaine d'avant, pour ceux qui étaient là, justement, on a expliqué que il fallait un peu casser son envie. C'est pas parce qu'on veut quelque chose qu'on l'aura. Donc là, avec ça, la Dmorazaké nous a expliqué 2 obstacles. Très bien. Bon. Maintenant, comme Zerach a dit, on avait fini quand même sur une note négative. Zerach.
Zerach.
Ouais. Zerach, c'est-à-dire briller.
Mais excuse-moi, dans la première raison.
Oui.
Tu dis, parce qu'on ne comprend pas l'enjeu, mais il y a aussi un phénomène majeur, c'est qu'on ne voit pas le résultat de
tu as raison.
Des actes.
Tu as raison.
C'est ça aussi.
Je ne suis pas en train de dire que c'est de notre faute.
Tu vois ce que je veux dire? Si tu voyais un peu le résultat,
tu as raison, 100%. Tu as raison, 100%. Mais dans les faits.
Mais tu vois aucun résultat, tu dis bon.
Dans les faits, ça, c'est les 2 raisons. Et 2 obstacles. Premier obstacle, c'est qu'on ne réalise pas l'enjeu. Deuxième obstacle, on a dit, c'est quoi? C'est que j'ai pas envie. Je veux pas. J'ai pas envie. Ça ne m'intéresse pas. D'accord? Quand quelqu'un dit ça ne m'intéresse pas, ça veut pas dire que c'est pas intéressant. Il a pas dit ça, il a pas dit c'est pas intéressant, il a dit ça ne m'intéresse pas. Ça me dit rien. D'accord? Et donc ça, c'est le grand piège du Yetzara. Le Yetzara, il dit, écoute, tu sais, la Torah, c'est intéressant, tout ça, c'est bien beau, mais pas pour moi. Il y a d'autres personnes qui seront certainement intéressées. Moi, je ne suis pas intéressé par ça. Donc ça, c'est les 2 grands pièges du Yetzara.
Mais le Bédoni dit pas ça, lui.
D'accord? Justement. Et les 2 grands pièges du Yetzara, c'est qu'on doit combattre le Yetzara sur ces 2 points constamment. Constamment. Constamment, constamment. Bon. Alors, comme Zerach a dit, d'accord? Finalement, on a fini la semaine dernière un petit peu sur une note négative. On a eu l'occasion aussi la semaine dernière d'analyser l'anatomie du corps.
Il y a beaucoup de nuages.
Ouais. Les 4 morts, voilà. D'accord. Donc on a eu l'occasion d'expliquer la semaine dernière les 4 morts. C'est un long cours la semaine dernière.
C'est bon cours.
Merci. Donc on a eu l'occasion d'expliquer les 4 morts. D'accord. Les 4 morts qui existent dans la Torah. Skila, Srefa, Erek, Renek. D'accord. Ah, le sujet est intéressant, après, il faut être intéressé. Donc, on avait 4 types de morts. Et on a expliqué que les 4 types de morts correspondaient à 4 étapes dans l'anatomie du corps. Donc, on a expliqué longuement qu'il y a le cerveau, il y a le cou, il y a l'intérieur. Enfin, on a expliqué longuement. Pourquoi on a expliqué tout ça? Pour expliquer que même si une personne est religieuse, d'accord? Même si je suis religieux, que j'ai a priori, j'ai rien à me reprocher, je fais Kriyat Shema, je fais les tefillines, je mets les tefillines, je fais toute la mitzvot. D'accord? Qu'est-ce qu'on a expliqué? On a expliqué qu'il peut y avoir quand même des blocages. C'est quoi les blocages qu'il peut y avoir? Ça, c'est le point sur lequel, un point très important sur lequel on est arrivé la semaine dernière. Ah, t'as révisé le cours, c'est bien. C'est tout le cours jusqu'à la fin? Jusqu'à la fin, t'as révisé?
Oui.
C'est un long cours, hein. Alors. Donc.
J'ai pris sur moi.
Qu'est-ce qu'on a expliqué la semaine dernière? On a expliqué qu'il y avait 4 morts. Il y avait 4 morts. Et qui correspondaient pas forcément à des avérotes qui nous ont l'air des avérotes comme manquer le Kriyat Shema. On parle pas forcément de manquer le Kriyat Shema. On a dit que ça pouvait être subjectif aussi. Manquer le Kriyat Shema, ça pouvait être quoi? Ça, par exemple, ne pas avoir assez de soumission à Kadosh Baruch Hu. Qui peut prétendre avoir assez de soumission à Kadosh Baruch Hu? On avait expliqué un autre exemple, c'est une personne qui a assez de soumission à Kadosh Baruch Hu, mais qui n'arrive pas à mettre en pratique, donc il ne met pas assez en pratique. On avait donné comme ça 4 exemples. Je ne veux pas revenir, parce que c'était court la semaine dernière, il faudra au moins 1 demi-heure pour revenir dessus. Mais en tout cas, ce qu'on a expliqué, la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est qu'on ne parle pas ici forcément de quelqu'un qui fait les 400 coups. Et que c'est pas seulement quelqu'un qui fait les 400 coups qui doit être malheureux. Même une personne qui se dit religieux, on est très très loin d'être parfait. Pourquoi on est très loin d'être parfait? Parce qu'on justement, on s'est posé les questions la semaine dernière, on a dit, est-ce que finalement on craint assez à Kadosh Baruch Hu? Est-ce que finalement, comme on a expliqué, est-ce que finalement on s'attache assez à Kadosh Baruch Hu? Est-ce que finalement, comme il avait expliqué par rapport au Kriyat Shema, est-ce qu'on a assez de soumission à Kadosh Baruch Hu? Etc, etc. Est-ce que il n'y a pas un instant de la journée qui passe sans étudier la Torah? Bien sûr que oui. Est-ce qu'on ne dit pas de la Shonara? Est-ce qu'on donne la Tzedaka quand il faut? On avait donné différents exemples. Est-ce qu'on peut dire qu'on met en pratique tous les cours qu'on étudie? Bien sûr que non. C'est évident que non. D'accord. La colère. Donc on a donné différents exemples. Pourquoi on a donné différents exemples? C'est pas pour nous donner des claques. C'est pas le but. Le but, c'est simplement pour nous montrer qu'on a du chemin, qu'on est très loin du compte. Parce que l'un des grands pièges du Yetzara, et là on arrive au 2e piège de l'ego. C'est quoi le piège de l'ego? Pourquoi je me sens bien? Parce que je me sens parfait. comprends? Le premier piège, c'est quoi? C'est je ne comprends pas l'enjeu. Dans le deuxième piège, je comprends l'enjeu, mais je pense avoir déjà atteint le but. Donc mon ego est parfait, j'ai rien à me reprocher, je suis bien. Qu'est-ce que tu me veux? Et c'est là qu'on est justement, on essaie de nous mettre des claques pour nous dire non. Même si tu es ultra religieux, je vais mettre des étiquettes ultra religieux, ultra orthodoxe, d'accord? Même si tu es très religieux, parfaitement religieux, tu fais toutes les mitzvot, on est toujours très très loin du compte. Très très loin du compte, et on a expliqué justement les quatre morts spirituellement, normalement on devrait passer par là tous les jours. Alors pourquoi on nous explique tout ça? De toute façon, comme Yaakov a dit la semaine dernière, c'est la question sur laquelle on s'est arrêté, il dit mais ça change quoi alors? Tu viens voir quelqu'un, je lui dis tu sais, t'es un naze. Il croyait qu'il était super, tu vois. Tu viens voir, tu dis tu sais quoi, t'es un naze. Tu vois rien. T'es mitzvot, tu crois que t'es religieux, t'es un naze. Où tu veux en arriver? D'accord?
Oui, mais t'as pas écouté.
D'accord, attends. Où on veut arriver avec ça? On va. Donc ça, c'est pour ça que, comme Gérard dit, la semaine dernière, on est resté un peu sur une note négative. Parce que, d'accord, je suis là, c'est bon, t'es là, t'es content, ça va, maintenant, on continue, qu'est-ce que je fais maintenant, la corde, ça y est, qu'est-ce que tu me veux?
Je lâche tout.
Alors, ça y est, je lâche tout, alors, tant qu'à faire.
Je joue au ski, je fais un bref.
Alors, c'est là que le père écrète va être... C'est là que le père écrète va être très important. Dans le Père Crète, on va expliquer comment on va utiliser la dépression, entre guillemets, qu'on peut avoir suite à la conclusion de nos Averot, et la conclusion du fait qu'on n'est pas parfait. On va utiliser pas cette dépression, mais ce mécontentement.
C'est une prise de conscience.
D'accord? C'est une prise de conscience. Et suite à cette prise de conscience, en général, on a envie d'avancer. On a envie de changer les choses. Alors, c'est le meilleur moment, comme on va expliquer ici, c'est le meilleur moment pour demander la miséricorde à Kadosh Baruch. Ça veut dire qu'on va transformer la dépression en prière. Quand on réfléchit, d'accord, regardez bien, regardez les gens qui prient. Quelqu'un qui prie, il a un visage sérieux. Il a un visage sérieux, celui qui ne connaît pas, il peut croire même qu'il est déprimé, qu'il n'est pas bien. Rentrer dans une synagogue, vous pouvez voir des gens qui sont dans un moment solennel, vous croyez qu'ils sont pas bien. Il n'est pas bien. Ça veut dire que tu ne sais pas s'il est déprimé, ou au contraire, s'il est en train de demander la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. La nuance est très fine quand on réfléchit. Et c'est justement ce que va expliquer ici l'Admor HaZaken dans Père Écrète. Il va expliquer maintenant qu'on a pris des claques et qu'on a compris qu'on est loin d'être parfait, c'est maintenant le meilleur moment pour demander à Akadosh Baruch Hu. Vous remarquerez d'ailleurs que Yom Kippour, qui est le moment dans lequel on demande la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, ne vient pas comme ça. C'est pas on débarque comme ça le mois d'Elul, ça y est Yom Kippour. Non. Avant d'arriver à Yom Kippour, il y a d'abord 40 jours dans lesquels on prend des claques. On devrait en tout cas. Tous les jours, on va prendre des claques, on va se dire, on n'est pas bien, ratanou. Et c'est seulement le dernier jour que là on dit, ah, maintenant on va demander la miséricorde à Kadosh Baruch Hu, maintenant on demande le pardon. Pourquoi? Parce qu'on part de la base qu'on ne peut pas demander le pardon à Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas prier tant que quelque part on n'a pas un petit peu déprimé. On ne peut pas prier tant qu'on ne réalise pas la gravité, l'importance de ce qu'on a fait. Voilà pourquoi l'Admor HaZaken, avant d'arriver au chapitre 8, il y a un chapitre très important dans lequel on va expliquer justement comment prier à Kadosh Baruch Hu. Donc très important, ça va nous concerner tous les jours. Avant d'arriver là, il fallait d'abord prendre conscience qu'on est loin du compte. Que chacun à son niveau, on est très loin du compte. Tant qu'on n'a pas ça, on peut pas comprendre ce que ça veut dire prier. S'excuser. On avait expliqué une fois dans un cours, dans l'écoute à Marie, dans la première partie, que si une personne ne comprend pas l'enjeu des Averot qu'il a fait, il comprend pas qu'il a fait quelque chose de mal, il peut pas s'excuser. Et même s'il dit « je m'excuse », il le fait parce qu'il doit le faire et parce qu'il sait que s'il ne s'excuse pas, la vie ne pourra pas continuer son petit train. D'accord? Son train-train. Mais dans les faits, il recommencera, après il recommencera, parce qu'il n'a jamais regretté ce qu'il a fait. Pourquoi il n'a pas regretté ce qu'il a fait? Parce qu'il n'a pas réalisé ce qu'il a fait. Donc voilà pourquoi jusqu'au Perek Zayin, on a essayé de réaliser ce qu'on fait. On a essayé de réaliser ce qu'on a fait, de réaliser que tout se passe à l'intérieur, qu'on a un rouage qui est différent des autres, et que normalement on devrait être concerné, et que c'est très grave, qu'on comprend pas l'enjeu, et que même si on est religieux, mais concrètement, on est très 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 loin du compte. Comme on a pu expliquer en décrescendo. Déjà, c'est possible qu'il a fait une avéra sur lequel est Khayav Karet, un gros nuage. Même s'il a fait une petite avéra, c'est possible que c'est une avéra qui forme un gros nuage aussi fort qu'une avéra comme Avodah Zara, comme par exemple la colère. D'accord? Le fait de pas dénazer, comme ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Donc, on a expliqué dans des exemples clairs, concrets et réels, qu'on est très très loin du compte. Là maintenant, une fois qu'on a compris ça, maintenant on comprend, une fois qu'on a compris qu'on est loin du compte, c'est le meilleur moment pour parler à Kadosh Baruch Hu, pour lui dire « Ok, je m'excuse. » Et là, c'est le meilleur moment dans lequel la Neshama parle à Kadosh Baruch Hu. Tant qu'on n'a pas arrivé à ce moment-là, à ce déclic, on perd son temps. On va s'excuser, bien sûr qu'on va s'excuser. Mais c'est pas des excuses, c'est une formalité. Toutes les tfilotes peuvent être une formalité. Qu'est-ce qui fait qu'une tfila va être sincère? C'est quand je réalise que ça me concerne et que c'est sérieux. Et que l'enjeu est capital. Là, maintenant, une fois qu'on a compris que l'enjeu est capital dans le chapitre précédent, maintenant, on va commencer à comprendre comment on fait une tfila. D'accord?
Ok. C'est pour ça qu'on dit qu'il vaut mieux un déclic qu'un grand claque.
Mieux vaut
un? Un déclic qu'un grand claque.
Qu'un?
Un grand claque.
Un grand claque, c'est-à-dire?
C'est la pub pour les voitures, la ceinture.
Ah, oui, d'accord.
C'est ça. Il vaut mieux un déclic qu'après tu prends une grande claque.
Oui, mais là, ce qu'on veut expliquer, c'est que tant qu'une personne n'a pas pris conscience de ce qu'il a fait, et quelque part, il a pas
compris.
C'est mignon.
On dit comme ça. Il y a une phrase dans la Gemara qui dit que la plus grande joie peut venir seulement après des pleurs. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas souffert ne peut pas comprendre ce que c'est la joie. S'il est venu directement dans sa vie et tout va bien, il croit qu'il est joyeux, mais c'est pas de la joie, ça, c'est la routine. Une personne qui peut réellement être joyeuse, c'est quand il y avait des problèmes.
À part s'il a médité.
D'accord.
S'il a médité sur, justement,
très bien.
La bonté d'accord.
Comment, dans quel cas on médite? T'as déjà vu des gens qui méditent quand tout va bien?
Oui.
Pour moi, c'est normal.
Bah, justement. Celui qui sort.
C'est rare.
Parce qu'on relativise, parce que.
Parce que c'est normal.
Si rien nous,
c'est normal.
Nous accable. Donc finalement, on relativise, on se dit
comprends.
Que
c'est quand, je donne un exemple, voilà. C'est quand la dernière fois qu'on était content de respirer?
Non, là, c'est sûr.
Non, attends,
c'est sûr que là.
Je dis Dieu.
Tous les matins.
Merci, je respire.
Tous les matins.
Eh bien, je vais vous dire quand est-ce qu'on va remercier Kadosh Baruch Hu. C'est le jour où, Chas V'Shalom, on aura du mal à respirer.
C'est sûr que de ce point de vue-là, c'est évident.
Juste après, je peux vous dire qu'on remercie avant, on dit merci que je respire. Merci à Kadosh Baruch Hu de respirer. C'est-à-dire, encore une fois, s'il n'y a pas de pleurs, on ne peut pas avoir de joie.
Ce genre de pleurs, effectivement.
S'il n'y a pas de déprime, entre guillemets, mais ce n'est pas une déprime négative. Si on ne réalise pas qu'on est loin du compte, on ne peut pas prier à Kadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi la préparation à la tfila est très importante, et même quelque part plus importante que la tfila. Parce que sinon on perd son temps. Sinon c'est une formalité. On dit un texte, bon bien sûr le texte tu le comprends, je peux te le traduire le texte, il n'y a pas de problème. Je comprends le texte, je peux te l'expliquer même si tu veux. Mais la question est-ce que je sens que le texte me concerne, qu'on parle de moi. Qu'on parle de moi, c'est de moi qu'on parle ici.
Ah oui.
Est-ce que je le ressens? D'accord? Bah, tant que j'ai pas réalisé ce que je fais, non, je ressens pas.
Du coup, il faut un grand claque pour avoir un déclic.
D'accord.
Tu veux pas réaliser.
C'est pour ça.
Que t'as des nuages.
Mais justement. Voilà le rôle de la Teshuva, justement. De comprendre qu'il y a des nuages.
Mais une fois que t'as compris, c'est pas pour ça que.
Pas du tout.
Les nuages sont toujours là.
Il faut réaliser qu'on est loin du compte. C'est ce qu'on a expliqué. Réaliser qu'on est très loin du compte.
On va déprimer.
Pas du tout. Tu vas pas déprimer, tu vas comprendre que t'es loin du compte. Quand tu as compris que t'es loin du compte, là, maintenant, tu vas dire Dieu, excuse-moi. Mais là, ça va être sincère.
Il y a beaucoup de gens qui disent, je suis trop loin maintenant.
Non, justement, c'est là qu'on va transformer la déprime, enfin pas la déprime, mais
le découragement,
en prière.
On disait ça, on est trop loin maintenant.
Oui, c'est sûr. Et quand vous remarquez, regardez, par exemple, vous prenez les Tehillim, les psaumes, même dans le Tfilot, on dit je t'en prie à Kadosh Baruch Hu, aide-nous, on est dans la détresse, on sait pas quoi faire. Ça peut très rapidement être perçu comme de la déprime. D'ailleurs, il y a des gens qui prient, mais qu'en vérité, ils sont déprimés. En train de se plaindre. D'accord ? On nous dit que celui qui peut réellement prier à Kadosh Baruch Hu et demander, c'est une personne qui a compris l'état dans lequel il se trouve. Donc maintenant qu'on a compris ça, on va commencer le Perek Ret, le chapitre 8. Vous avez Perek Ret ? Okay. Non, j'ai pas dit ça. De toutes les façons, quoi qu'il en soit, il faut toujours prier.
Ouais, mais si t'es déprimé que tu pries, t'attends que
t'as. C'est le meilleur moment. Le meilleur moment pour prier, c'est quand on a un coup de blues. Quand t'as un coup de blues, tu sens que ça va pas. C'est le meilleur moment. Tu fais une fila, tu casses les briques. Bien sûr. Il y a deux options. Quand une personne se sent pas bien, il y a deux options. Bien sûr. Mais maintenant, le gars, il a déjà réalisé ce qu'il a fait, tu comprends. Bessimra, ok, il est pas triste, mais il a réalisé qu'il est loin du compte. Quand une personne est comme ça, il a réalisé qu'il est loin du compte, il y a deux options possibles. Soit il se met sous sa couverture, il dit bon, tant pis.
Abandon.
D'accord ? Abandon. Soit il dit non, je vais réussir. Ça veut dire que soit on va transformer la déprime en moteur qui va me permettre d'aller très très loin, c'est comme un ressort. J'ai senti qu'il y a quelque chose qui me dérange, je vais tirer très très loin, soit au contraire. C'est la déprime qui va m'amener au fond de la vie. Donc c'est un point qui est très important, le point du Perek Ret. Là, on est arrivé à un point très important parce que là, on est arrivé à un point dans lequel on a compris qu'on a beaucoup de travail.
Oui, mais on a dit que c'est pas une tristesse. Donc, imaginez, C'est
tu as raison, bien sûr. Tu as raison, tu as raison. Ça veut dire, je vais vous donner un exemple. Imaginez-vous, vous avez un patron qui arrive dans une société, d'accord, et qui prend ses employés et qui se met à leur dire, il ouvre tous les carnets de travail, d'accord, et dit bon, vous avez fait ça, ça c'est naze, c'est naze. Et il arrive à la conclusion, il les a tous mis par terre. Voilà, naze, 0. Là maintenant, à ce moment-là précis, il y a deux options possibles. C'est soit d'accord, on s'enfonce, ça leur dit bon, ben dans ce cas-là, tant pis, on dépose le bilan. Soit au contraire, on va réussir à utiliser cette déprime pour au contraire dire non, on va réussir, on va surmonter. C'est un moment très important. C'est un moment dans lequel soit tout peut se casser la figure, soit au contraire, on peut utiliser ça pour remonter la pente.
Ça c'est expliqué dans les bouquins de management.
C'est une règle.
Ah, je connais Tania, moi.
Mais quand
on prend
le temps de la plante,
tu remotives.
Bien sûr,
avant l'épicerie.
Hein?
Avant de.
Veiné. Allez. Veiné. Acharei ha'makat ha'da'at bechol anal.
Tania, j'ai lu ça.
Donc, acharei ha'makat ha'da'at bechol anal. Une fois qu'une personne s'est approfondie dans tout ce qu'on a dit précédemment. Qu'est-ce qu'on a dit précédemment? Maintenant, on sait. Je l'ai répété. Qu'est-ce qu'on a dit précédemment? On a expliqué justement que notre problème numéro 1, c'est qu'on réalise pas l'enjeu. Problème numéro 2, on a expliqué, c'est que l'ego couvre tout, je suis parfait. Et donc justement, il faut se rappeler qu'on est imparfait. On est très loin d'être parfait. Ah ok, alors je me suis approfondi dans ça. Alors maintenant, je fais quoi maintenant?
Ça, bonne question.
D'accord. Qu'est-ce que je fais?
Venons-en en fait.
Alors, Yuchal Levakesh Behemet Mumka Deliba. C'est seulement à ce moment-là qu'il pourra demander Behemet. De manière sincère, de manière vraie. Mais Umka Deliba, du profond du cœur. Deux notions ici. Il y a premièrement des gens qui vous disent des choses, mais que c'est faux. Ils ne le pensent pas. Il y a des gens qui vous disent des choses vraies, qui le pensent, mais que ça ne vient pas du profond du cœur. C'est-à-dire qu'il y a deux éléments très importants ici. Premièrement, est-ce que ce que je dis c'est vrai? Et deuxièmement, est-ce que c'est ce que je pense réellement au fond de moi? Vous prenez par exemple, si je vous dis par exemple, il faut faire une mitzvah, il faut mettre la tzedaka. C'est vrai ce que je vous dis. C'est vrai. Mais est-ce que je le pense au fond de mon cœur? C'est une autre question. Il y a deux choses ici. Donc quand moi je demande à Kadosh Baruch Hu, je t'en prie, pardonne-moi. Il y a deux choses ici que je veux savoir. D'abord, est-ce que c'est vrai que je suis en train de demander à Kadosh Baruch Hu de me pardonner, ou bien je suis simplement en train par routine de lire une formalité? Ou premièrement, est-ce que c'est vrai? Et deuxièmement, est-ce que réellement je le pense au fond de moi? Deux choses. Nous dit l'Admor HaZaken, c'est seulement une fois qu'une personne a réalisé les points qu'on a expliqués dans Perek Zayin. Bien que dans la Chassidut, on n'a pas l'habitude de prendre des claques. C'est pas notre but. On dit toujours, il faut avancer. Bezrat Hashem, Dieu nous aidera. D'accord? Qu'est-ce qu'on te dit ici? On te dit ici que des fois, c'est important de faire un bilan et de réaliser qu'on est loin du compte. Et qu'au contraire, ce bilan, non seulement qu'il va pas nous freiner, mais il va nous permettre de demander de manière sincère à Kadosh Baruch Hu, dans le psaume, ce qu'on lit dans le psaume 51, le classique de la Teshuvah, Kirov Rachamecha Mecheb Sha'ai. Je demande à Kadosh Baruch Hu, je lui dis, je t'en prie, Kirov Rachamecha, tellement tu es miséricordieux, Mecheb Sha'ai, efface mes fautes. De qui on parle ici? C'est quoi cette demande du roi David? Je t'en prie, efface mes fautes. De quoi efface mes fautes? C'est quoi ça? Quelqu'un demande pardon, il dit efface mes fautes? C'est pas normal. C'est pas comme ça qu'on s'excuse. Tu veux dire quoi, efface mes fautes? Ça vous paraît normal ce que le roi David demande? Pas du tout. On ne va pas d'effacer les fautes, on demande de s'excuser, de réparer les fautes. Pourquoi on demande d'ici d'effacer les fautes? Parce qu'on parle ici d'une personne comme nous, qui après avoir étudié le Perek Zayin, le chapitre 7, et avoir compris que réparer nos fautes, on ne pourra jamais le faire. Réparer réellement nos fautes et être à la perfection, jamais on ne pourra le faire. Donc on comprend que réparer, on ne pourra jamais le faire. Donc qu'est-ce qu'on va demander à Kadosh? On dit écoute à Kadosh Baruch Hu, je ne te demande pas de réparer mes fautes, parce que réparer... Ça, je ne sais pas si c'est possible. Par contre, une chose, toi, tu peux faire, tu peux effacer mes fautes. Bien sûr. Justement.
Faire comme si qu'ils avaient aimé.
Exactement. Parce que, normalement, lorsque j'ai blessé quelqu'un, et je viens le voir, je dis, bon, je t'en prie, fais comme si de rien n'était. Quoi, fais comme si de rien n'était, tu m'as blessé? C'est pas comme ça que ça m'a rendu. Non, je vais essayer de m'excuser, je vais essayer de réparer. Mais là, pourquoi on ne demande pas à Kadosh Baruch Hu de réparer? C'est vrai que le roi David, dans la première partie de ce psaume, il demande à Kadosh Baruch Hu il dit, je vais essayer de réparer. Mais après, au bout d'un certain temps, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écoute, Kadosh Baruch Hu, tellement tu es miséricordieux, efface mes fautes. Mais c'est pas, il a pas dit ça directement. C'est pas dès le départ, il dit bon, elle a effacé mes fautes, ça y est, on en parle plus, pas du tout. D'abord, il a essayé de réparer. Et une fois qu'il réalise que il y a des choses qui sont irréparables, et qu'on est très loin du compte, alors là, il dit écoute, Akadosh Baruch Hu, je t'en prie, efface mes fautes. Mais ce qu'il faut comprendre, nous dit l'Admor HaZaken, c'est que cette demande ne peut être sincère seulement si la personne a réalisé qu'il est très très loin. S'il n'a pas réalisé qu'il est très loin, jamais il va dire à Kadosh Baruch, je t'en prie, la seule solution c'est que tu effaces mes fautes. Il en a rien à faire, ni de ses fautes, ni du fait qu'il y a des fautes, ni du fait qu'il y a un Dieu. Il en a rien à faire, ça lui fait ni chaud ni froid. Donc automatiquement, la demande ne peut pas être sincère. C'est seulement une fois qu'il se sent concerné, qu'on parle de moi, c'est de moi qu'on parle ici. C'est seulement une fois que je me sens concerné, là, je peux parler à Kadosh Baruch Hu, et je peux lui parler de manière directe, et je peux lui dire que Rov Rachamecha Mechep Sha'ai. Que tellement tu es miséricordieux, efface mes fautes. Comme il continue ici, on va lire encore quelques lignes et on développe. Qui azaï, lorsqu'une personne a réfléchi longuement à ce qu'on a expliqué les semaines précédentes, donc que le rouage est différent, etc., etc., et qu'on est très loin du compte, tikava belibo be'emet, il va réellement comprendre, saisir, réaliser dans son cœur, gotel arachmanut alprinat et le kutche benafcho, à quel point il devrait avoir pitié sur la divinité de son âme. À quel point il devra avoir pitié sur son âme. D'accord? Alors je sais que ça fait un peu chrétien comme terme, avoir pitié sur son âme. Mais, hein, c'est ça, non?
Je sais pas.
Bon. Mais, en tout cas, nous dit l'Admor HaZaken, que c'est seulement une fois qu'une personne a réfléchi aux notions qu'on a expliquées, qu'un juif, il est conçu différemment, et qu'une mitzvah, il aurait pu changer le monde en bien, et qu'avec une avéra, il a cassé le monde, et qu'il a alimenté les forces du mal, et que, même s'il fait des petites avérotes, c'est des nuages énormes, etc., etc., etc. C'est seulement là qu'il réalise. C'est seulement là qu'il réalise à quel point je fais de la peine. Vous savez, des fois on voit quelqu'un et dit il fait de la peine. Est-ce que c'est quand la dernière fois qu'on s'est dit sur soi-même je fais de la peine? D'accord. Je fais de la peine. J'ai honte de moi. Je fais de la peine. C'est même pas honte, c'est encore plus que je fais de la peine. Vous savez, quand on voit quelqu'un qui passe, il fait de la peine celui-là. C'est quand la dernière fois qu'on est sur soi-même? Je fais de la peine. Quand on peut dire ça? C'est quand on a réalisé qu'on est loin du compte. Mais c'est pas forcément un sentiment négatif, c'est ce qui va expliquer ici l'Admor HaZaken. C'est pas forcément un sentiment négatif. C'est sentir qu'on est loin du compte pour mieux parler à Kadosh Baruch Hu. Après, c'est complètement un autre dialogue avec Kadosh Baruch Hu.
C'est intéressant qu'il dit que c'est à ce moment-là qu'on éprouve la parcelle de divinité qu'on emporte en soi.
Non. C'est à ce moment-là qu'on réalise Godel Arachmanout.
Oui, bon.
Donc, ça veut dire la pitié qu'on devrait avoir sur la parcelle divine qui est en nous sur la Neshama, Kanis Karleel, comme on a expliqué avant. On a expliqué dans le chapitre précédent qu'un des meilleurs moments pour réfléchir à tout ça, c'est quand? Vous rappelez c'est quand?
Évidemment, le soir,
une fois par mois.
Kriyat Shema du soir. D'accord? Ou bien une fois par semaine, une fois par mois, etc. C'est dans des moments comme ça.
Des moments clés.
C'est dans des moments clés comme ça qu'on doit réfléchir, on doit se dire, je fais de la peine. Où je vais comme ça? Combien de temps je vais tirer comme ça? De qui je me moque? Comment disait le Rabbi Rachab? Il a dit, lorsqu'on est jeune, on pense qu'on arnaque le monde. D'accord? D'accord? Après, lorsqu'on grandit un peu plus, on comprend qu'on n'arnaque pas le monde, mais on se dit, bon, j'arnaque pas le monde, mais j'arnaque ma ville. Après, on grandit un peu plus, on se dit, bon, c'est pas ma ville que j'arnaque, mais c'est mes voisins. Mes voisins, ma famille, je les arnaque. Après, tu grandis un peu plus, tu comprends que tu les arnaques pas. Tu dis, bon, alors c'est pas eux que j'arnaque, mais j'arnaque ma famille. Ils ont une image de moi qui est fausse. Après, avec le temps, tu avances, et tu comprends qu'en vérité, tu arnaques personne, tu t'arnaques à toi-même. Et il avait l'habitude de conclure, et il disait, et là je réalise que c'est pas une chorma, c'est pas compliqué d'arnaquer un imbécile. Parle en toi-même, bien sûr. Rabbi Rachab. Ça veut dire que, quand on est jeune, on croit qu'on arnaque le monde, on va changer le monde. Ça marche pas comme ça. C'est ce qu'il aurait expliqué ici.
Ah, mais le Benoni, il veut bien faire, lui, il veut pas arnaquer personne.
Oui.
Il fait des fautes, il fait...
Bien sûr qu'il fait des fautes.
Non,
oui, mais ce qu'il peut comprendre, c'est quoi? C'est qu'à un certain moment, le Yetzer Hara, il rassure la personne, il dit t'inquiète pas, tout va bien, tout va bien, te prends pas la tête, ça se passe bien, Dieu est content de toi.
Il nous endort plutôt.
D'accord, mais c'est pas qu'il t'endort, il te rassure. D'accord. Et j'écoute, mais il a raison.
On a un déclic.
D'accord. Il a raison. Et des fois, il faut un Perexaïn comme ça.
Comme dans la pub.
Pour nous secouer. Hein, et pour nous rappeler que s'il n'y a pas un petit clic.
Il y
aura un grand clac. Pour nous rappeler ça.
Pour avoir un petit clic.
Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on attend? On attend que la personne réalise qu'il fait de la peine. Et alors? Alors, on veut pas qu'il déprime. C'est pas ça le but. Ou basé. Yéorer, rachamim, aelyonim, miyut gimel, midot, arachamim. Ah. Là, maintenant, on va arriver aux 13 attributs de la miséricorde. Ça vous dit quelque chose, les 13 attributs de la miséricorde?
Oui.
C'est quoi les 13 attributs de la miséricorde?
C'est après le schéma, juste avant la tefila. Non?
Non, pas du tout.
Page 32.
Non, c'est après la tefila.
C'est quoi les 13 attributs de la miséricorde?
Ah bon, mais pas
Alors, Hachem, Hachem, Kel, Rachou, Vaya, Avon, Hachem, Alpana, Vaikra, Hachem, Hachem, Rachou, ok. Alors, de quoi ça parle? C'est quoi l'enjeu? Alors, on les appelle, d'accord, communément, les 13 attributs de la miséricorde. Donc, qu'est-ce que tu dis, c'est quoi? C'est... Alors, mais c'est d'où vient ces 13 attributs? Dans quel contexte?
Que Moshe Rabbeinu qui a trouvé à Kadosh.
Que Moshe Rabbeinu a trouvé à Kadosh Baruch Hu, vous pardonnez quelle faute? La faute du veau d'or. Très bien. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la faute du veau d'or? C'est la faute la plus grave de l'histoire.
La plus grave.
La plus grave.
C'est pour ça qu'on
Il n'y a jamais eu plus grave que ça.
Plus que Adam Rishon.
Il n'y a jamais eu plus grave que ça. D'accord. Pourquoi il n'y a jamais eu plus grave que ça? Parce que la faute du veau d'or, d'accord, est intervenue 40 jours, d'accord, est intervenue 40 jours après le don de la Torah. Le Midrash dit clairement, il dit, c'est comme une fiancée qui va tromper son mari 40 jours après le mariage. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. D'accord. Qui l'a fait 2 ans, 3 ans, 2000 ans après le mariage? Bon, c'est une chose.
Comment ça, c'est une chose?
D'accord. Non, c'est-à-dire c'est une chose.
C'est
pas la même chose.
Là, c'est là, sous la...
Mais là, il y a un problème.
Elle prend pas conscience.
Quand c'est 40 jours après le mariage, ça veut dire quoi? Ça veut dire encore une fois qu'on n'a pas pris conscience du mariage. Donc encore une fois, on revient au même problème. C'est quoi le problème? On réalise pas l'enjeu.
C'est même pas
40
jours, c'est en même temps.
40
jours.
40 jours.
On aurait
attendu
des choses. D'accord.
Nous on voit Walou, mais eux ils ont vu...
Ils ont vu quoi?
Ils ont vu la mer qui s'est ouverte, ils ont vu le truc.
Bien sûr, bien sûr. Donc c'est pour ça que c'est la véra la plus grave. Maintenant, a priori, d'accord, Moshe Rabbeinu était très embêté lorsqu'il a vu cette véra. Pourquoi il était très embêté? Parce qu'il s'est dit, je ne vois pas ce qui peut pardonner cette véra. C'est tellement grave qu'il n'y a rien qui peut pardonner ça. C'est énorme. Ça remet en cause tout le mariage. C'est pas possible. Ça peut pas se réparer. 40 jours après le mariage, elle a trompé son mari. Qu'est-ce que je vais faire? Divorce, le gars. Ça, rentre chez toi, je prends une autre. C'est quoi ça? Donc, Moshe Rabbeinu a compris que c'était très grave. Que, logiquement, il n'y a pas moyen de s'en sortir. Et donc, c'est là que Moshe Rabbeinu va trouver, d'accord, par le biais de sa Kadosh Baruch Hu qui va lui donner les 13 attributs de la miséricorde. Ces 13 attributs de la miséricorde, on va expliquer, on va essayer d'expliquer aujourd'hui. Ces 13 attributs qui dépassent l'entendement. Et c'est un petit peu ça le sentiment qu'on va avoir lorsqu'on sent qu'on est déprimé et qu'il n'y a pas où aller. Et que bon, même si je sens que je suis pas bien, mais je peux pas arranger la situation. À un certain moment, on va devoir demander à Kadosh Baruch Hu, on va dire, écoute, je sais pas comment tu peux arranger, mais tu peux arranger. Tu es le seul qui peut arranger. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ce qui va se passer, c'est que la personne va éveiller les 13 attributs de la miséricorde. Les 13 attributs de la miséricorde, c'est ce qu'il y a de plus constant dans la tefila de, ce qu'il y a de plus fréquent dans la tefila de Yom Kippour. Bah, il y a avant, on répète, va y avoir un champagne avec, après on répète, parce que c'est ça ce qui pardonne. Pourquoi c'est ça ce qui pardonne? Parce que ça dépasse l'entendement. C'est là qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, tu nous aimes, et ça dépasse l'entendement. Ce qui va expliquer ici la Gemara Zaken. Comment une personne peut demander à Kadosh Baruch Hu de dépasser l'entendement? C'est une fois qu'il a réalisé que si on suit l'entendement, il n'y a pas moyen de réparer sa verrote. Tant qu'il n'a pas compris ça, on peut pas demander à Kadosh Baruch Hu de dépasser l'entendement. Vous comprenez ce que je veux dire? Faut qu'on comprenne ce que je veux dire.
Répète, n'a pas dépassé.
Je répète. Dans les 13 attributs de la miséricorde, les 8 guimel et d'Adar Hamu, on demande à Kadosh Baruch Hu de dépasser l'entendement, de faire quelque chose qui n'est pas logique. Ce qu'explique la Gemara Zaken, c'est que dans quel cas je peux demander de faire quelque chose qui dépasse la logique, c'est quand j'ai compris que si je suis la logique, il n'y a pas moyen de m'en sortir. On est d'accord? Je donne un exemple. C'est comme si par exemple je demande à Kadosh Baruch Hu directement un miracle. Je suis bloqué. Là, par exemple, j'ai besoin d'un peu d'argent à la fin du mois dans mon compte, je dis à Kadosh Baruch Hu de faire un miracle. Pourquoi je demande à Kadosh Baruch Hu de faire un miracle? Parce qu'il n'y a pas d'autre issue. D'accord? Attendez. Mais si je demande directement à Kadosh Baruch Hu un miracle, alors qu'en vérité, il y a de l'argent. Ça veut dire qu'en vérité, je demande pas un miracle. Ça veut dire qu'en vérité, je le fais par routine, parce que bon, c'est une phrase que je connais, mais je pense pas à ce que je dis. À quel moment je demande à Kadosh Baruch Hu un miracle? C'est quand je réalise que c'est la seule issue. C'est la seule option. Il n'y a pas d'autre option. De la même manière explique l'Admor Hazaken. Pour réellement demander à Kadosh Baruch Hu de mettre en œuvre les Yud Gimel Midot HaRachamim, les 13 attributs de la miséricorde, il faut comprendre, réaliser que c'est la seule issue. Et que, avec toute la tchouva qu'on peut faire, on est loin du compte. Comment on réalise ça? Justement, avec les éléments de réflexion qu'on a donnés dans le Perek Zayin, dans le chapitre 7. On a expliqué qu'avec tout ce qu'on a expliqué, qu'une Avera qu'on fait, un Lashon Hara qu'on fait, c'est fini, ça fait tout sauter. Lorsqu'une personne réalise ça, il dit écoute à Kadosh Baruch Hu, je sais pas ce que tu me veux, je peux rien faire. Donc, je veux que tu dépasses l'entendement pour me sauver. Ça, c'est le concept des Yud Gimel, mais d'Adar Hamim, des 13 attributs de la miséricorde.
Donc, c'est là-dessus qu'on tient, finalement.
Bien sûr. c'est la suite qu'on tient.
Il n'y a pas être de tribu.
Donc quelque part, d'accord, ça veut dire comme ça. Ça veut dire que c'est comme si, imaginez-vous, d'accord, Dieu il nous dit, Dieu il nous met sur un terrain, il dit vas-y débrouille-toi. Allez, allez, débrouille-toi. D'accord, maintenant il sait que je peux pas me débrouiller seul. Mais tant que je ne le demande pas, tant que je ne le dis pas que j'arrive pas à me débrouiller, il ne me donnera pas un coup de main. Donc quelque part, c'est bien qu'on réalise qu'on ne peut pas se débrouiller, parce que c'est là qu'on va se retourner vers l'entraîneur, vers Akadosh Baruch Hu, et c'est là qu'on se dira, bon, maintenant que tu es bloqué, je vais te donner un coup de main. D'accord ? C'est comme quand on étudie la Gemara. C'est comme quand on étudie la Gemara. Quand on étudie la Gemara, hein, d'accord ? Il y a plusieurs manières d'étudier la Gemara. Le premier moyen d'étudier la Gemara, c'est que directement, vous avez un maître qui vous enseigne directement la conclusion. Bon, ça c'est là, là. Ah, voilà, ta 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 ta. Non, on a compris.
On a essayé.
Sauf que, quand on étudie la Gemara de cette manière, il y a un problème. C'est quoi le problème ? C'est que la personne qui va écouter, celui qui va écouter le cours, ne comprend pas que pour arriver à cette conclusion, il y a eu d'abord différents barrages, différents blocages. Donc pour lui, c'est évident. Oui, c'est facile, c'est évident. Quand est-ce qu'on va apprécier ? Quand est-ce que nous-mêmes, on va apprécier la Gemara ? C'est quand j'étudie la Halakha, par exemple, et j'étudie la Gemara, qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'il y a un blocage. Moi, je comprends pas. Il y a un problème. Je bloque. Et c'est là que quand je bloque, je comprends que c'est là que je veux comprendre à quoi sert le commentaire. À quoi sert celui qui va m'enseigner. Mais si j'ai pas bloqué, je comprends pas à quoi ça sert. C'est la même manière. D'accord ? L'entraîneur sur le terrain, qu'est-ce qu'il dit ? Il te dit, je peux te donner directement les techniques. Je peux te donner directement mes techniques. Mes conclusions, après des années d'entraînement, je sais que voilà, ça c'est la bonne technique. Mais je ne vais pas te donner directement mes techniques. Ça ne marche pas comme ça. Je veux d'abord que te laisser jouer. Et attendre que tu te sois bloqué. Que tu dis que je suis perdu. Là, je viendrai pour te sauver. C'est quoi la différence ? C'est que ça change tout. Lorsque je comprends que je suis perdu et que je dois écouter l'entraîneur, là, je vais vraiment l'écouter. Mais si, dès le départ, l'entraîneur me dit voilà comment il faut faire et que je l'écoute bêtement, bah, le jour où ça me prendra la tête, je dis bon, bah, certainement qu'il se trompe. Peut-être qu'il se trompe. Je vais zapper ce qu'il m'a dit. C'est pas bon. Comment un cadeau, je vais refaire les choses ? Il dit non. D'abord, on va te laisser te débrouiller. Il faut que tu réalises que tu es bloqué, qu'il y a un problème. Une fois que tu réalises que tu es bloqué, c'est là que j'interviens. Ça, c'est le sens de la tefila, qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui. Est-ce que vous avez remarqué que il y a beaucoup d'histoires de tzadikim.
Ça, normalement, on le ressent.
D'accord ? Bien sûr qu'on le ressent. Regardez comment on le ressent. Il y a beaucoup d'histoires de tzadikim dans lesquelles on nous raconte, oui, les Bnei Israël, ils sont passés par une phase très difficile, et ils ont fait des tefilot, ils ont prié, ils ont pleuré, et Dieu, il les a sauvés. Wow. D'accord ? Ils ont jeûné et Dieu les a écoutés. Moi, je vous pose une question. Dieu qui connaît le futur, il avait besoin de ses cris, de ses pleurs. Pourquoi il fait ça ? Pourquoi tu me mets dans une galère pour me pousser à prier et pour me sauver ? Arrange directement la galère, ne me prends pas la tête.
Ça montre que tu fais un petit peu quand même.
Non, mais ça veut dire quoi ? Pourquoi Kadosh Baruch Hu met dans une... Et c'est ça ce qu'on fait dans la tefila, tous les jours.
On comprend.
Tous les jours dans la tefila, on fait ça. C'est quoi le concept même de la relation qu'il y a entre un juif et Kadosh Baruch Hu ? Dès que je suis bloqué, je tourne mes mains vers Kadosh Baruch Hu. Mais attends deux secondes, Kadosh Baruch Hu, il connaît le futur. Et il sait de toutes les façons que si je vais prier, il va me sauver, alors sauve-moi directement. Pourquoi tu m'embêtes ? Vous savez à quoi ça ressemble ? C'est comme si je vois une personne qui a faim, normalement, d'accord ? Et je vais lui couper les lits, je dis, tu manges plus maintenant, allez, pleure, allez, tiens, mange. C'est la même chose, c'est horrible, c'est du sadisme, ça, c'est pas normal. Je crois que c'est cruel. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu me coupes les vivres pour me forcer à pleurer, à vouloir tout casser, après je dis, tiens, mange.
C'est pour casser notre ego.
D'accord ? C'est ce que dit Claude Morazaken. D'accord ? Explique Claude Morazaken. Bien sûr. Explique Claude Morazaken, c'est ça, justement. Explique Claude Morazaken, c'est plus que ça. C'est que le but de la Kadosh Baruch Hu dans toute cette filote, c'est quoi ? C'est qu'on comprenne qu'il n'y a rien de normal. La Kadosh Baruch Hu aurait pu nous donner directement, mais pour nous ça aurait été normal. La Kadosh Baruch Hu veut qu'on comprenne qu'il n'y a rien de normal et que pour nous aider, il doit prendre quelque chose qui est plus haut que la logique, la miséricorde. La miséricorde, c'est-à-dire c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. C'est ça, c'est pour ça que la Kadosh Baruch Hu joue à ce petit jeu avec nous. Parce qu'il veut qu'on réalise ça. Et c'est exactement le but des Yud Gimel, Midot Arachamim, des 13 attributs de la miséricorde. Le but de la tefila, le but même de la tefila est là. On ne peut pas faire une vraie tefila tant qu'on ne réalise pas qu'on est bloqué. Et c'est pour ça que quand des fois Kadosh Baruch Hu, il voit que Am Israël ne réalise plus qu'il est bloqué et qu'il s'oublie, il oublie à Kadosh Baruch Hu, il est devant une épreuve. Pourquoi il est devant une épreuve ? Pour qu'on se rappelle de l'enjeu. On se rappelle que En Lanou Al Mi Leishaen, et la Lavinu Sheba Shamaim. Qu'on n'a pas sur qui retenir, on peut retenir que sur on peut compter que sur la Kadosh Baruch Hu. Il veut nous le rappeler, c'est très important de nous le rappeler. C'est le concept même du Dilamidat Rachamim, parce que par définition,
on ne peut compter sur un miracle que si on comprend que le miracle est la seule issue. Tant qu'on n'a pas compris ça, on ne peut pas compter sur un miracle. On ne peut pas dire à Kadosh Baruch Hu, fais-nous un miracle. Il faut d'abord que tu montres à Kadosh Baruch Hu que tu as besoin du miracle et que le miracle est la seule issue qu'il peut nous donner. Là, Kadosh Baruch Hu envoie le miracle. Tant que tu ne lui montres pas ça, je lui aurais dit, bon, ça ne le dérange pas, on peut continuer à vivre normalement. Bon, ça va être un peu difficile, c'est pas grave, ça va, il va avancer. C'est ce qu'il dit chez le Morazaken. Tout le but du Perek Zayin, tout le but du chapitre 7 dans lequel on a pris des claques, c'est pour que suite à ces claques, la personne va se mettre à prier à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire à Kadosh Baruch Hu, j'ai envie de changer. Aide-moi à changer. Je vais être différent. Je vais changer, je vais devenir quelqu'un de nouveau. Et à Kadosh Baruch Hu, il peut tout faire, on peut devenir quelqu'un de nouveau. C'est pas un problème pour à Kadosh Baruch Hu. Sauf qu'à Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on réalise que, normalement, dans la logique, dans la normale des choses, on peut pas, on est bloqué, il n'y a pas où aller. Et là, je vais invoquer à Kadosh Baruch Hu, je vais invoquer un niveau qui est plus haut que l'entendement, et c'est là que Kadosh Baruch Hu va m'aider.
Mais si c'est pas d'accord. Sincère,
bien sûr.
Si c'est pas sincère, on n'arrivera à rien.
Justement, comment ça peut être sincère?
Ah, c'est ça.
Ça peut être sincère quand on souffre. Quand on prend des claques, quand on comprend qu'on est loin du compte.
Même là, on souffre, on est en galoute, mais on s'en rend pas compte.
Mais tu souffres quand t'es en galoute?
Bah, a priori,
Non,
a priori, bon, non, mais...
Donc on souffre pas, donc t'as déjà répondu à ta question.
Non, mais... Évidemment,
on attend Mashiach. C'est ça ce que le rabbi disait tout constamment. On attend Mashiach.
On est installé dans notre...
Pour que Mashiach arrive, il faut le demander. C'est un miracle, Mashiach. Alors, pour que le miracle arrive, il faut qu'on réalise qu'on a besoin de ce miracle. Tant qu'on réalise pas...
On réalise qu'on souffre.
Ben oui.
Mais comment...
D'accord. Comme disait le rabbi de Kotz, qui dit le plus grand en exil, c'est qu'on oublie qu'on est en exil. Ça, c'est la pire des choses. C'est le gars, il est en prison, mais il croit qu'il est au paradis.
Oui, parce qu'il a une PlayStation. Alors
il voilà, il est heureux. Voilà, il a c'est fini.
D'accord. Il a envoyé Moshe quand il était au...
Exactement. Exactement. Vous comprenez? C'est ça, justement. C'est ça le problème. Pourquoi Mashiach n'est pas là? Pourquoi alors, Admatai, alors il y a 8 ans, Mashiach, now? Pourquoi? Parce que justement, tant qu'on réalise pas qu'on a envie de Mashiach, eh ben il viendra pas. D'accord. Non, c'est pas des épreuves, il faut une remise en question.
Non, mais est-ce qu'il faut des épreuves collectives? Parce qu'il y a eu des épreuves collectives, là, ici.
Non, pas forcément, pas besoin de passer par des épreuves, il y a deux options possibles.
Parce que, d'accord, pour que tout le monde...
Ce qu'on veut, nous, c'est une remise en question. Il y a plusieurs options pour arriver à une remise en question. C'est soit quand on prend des claques, soit quand il y a des événements majeurs,
oui, mais
qui dépassent l'entendement.
Tu parlais de Machère, il faut que ce soit une demande du Ham Israël collectif. Il faut pas que ce soit, c'est pas une seule personne qui va vouloir Machère.
Non, ça marche pas comme ça. Il y a un taux, il y a un quota.
D'accord.
C'est que il y a deux options. Il y a une option, je suis en train de vous dire, c'est quand on réalise qu'on est loin du compte et que par exemple voilà, il y a l'Iran qui va nous attaquer, on est devant, il va bientôt attaquer, il a tiré la balle, il a envoyé la bombe, on sait pas quoi faire. Il y a une deuxième option aussi. On a vu clairement qu'après les guerres en Israël, dans lesquelles il y a eu des miracles extraordinaires, il y a eu un réveil à la Teshuva extraordinaire aussi.
Bonsoir.
Il y a eu un réveil extraordinaire à la Teshuva, parce qu'encore une fois, dans quel cas on réalise qu'il y a un enjeu et que la situation dans laquelle on vit n'est pas normale, c'est quand il y a quelque chose de pas normal qui se passe. C'est comme ça que Kadosh Baruch Hu nous secoue. C'est ce qu'il veut expliquer ici le Dmor HaZaken. Donc quelque part, d'accord, ça veut dire que si on veut réellement prier à Kadosh Baruch Hu, il faut casser la routine. Voilà, si on peut résumer en un mot ce que j'ai dit pendant une demi-heure là. Si vous voulez vous rappeler en un mot. Il faut casser, il n'y a pas de routine. La routine, c'est le pire ennemi du juif.
Mais quand même, les épreuves, c'est pas uniquement les juifs, c'est toutes les nations qui ont subi les épreuves.
Tu as raison.
Parce qu'il s'est passé au Rwanda il y a pas longtemps, et ils sont massacrés.
Oui.
Tu peux me dire
que... Sauf que Israël, c'est particulier.
D'accord, c'est particulier, 2000 ans. Mais quand même.
Tu as raison. Oui. Chaque peuple a ses épreuves.
Les Arméniens, regarde...
Tu fais quoi?
Tu vois bien
Ça, c'est les calculs à Kadosh Baruch Hu. Ils attendent aussi, ils doivent prier à Kadosh Baruch
Hu. C'est en vain?
Non, ils doivent prier à Kadosh Baruch Hu. D'accord. Mais ceux vont connaître Akadosh Baruch Hu. Ce que je vais expliquer ici, c'est la chose suivante. D'accord? Ce que je vais expliquer ici, c'est que le but de toutes ces épreuves, le but des épreuves, c'est de casser la routine.
Oui, dans les mots, c'est compréhensible.
Ah, mais c'est pas dans les mots. C'est justement ce que là nous apprend la chassidoute. C'est qu'il n'y a pas de routine. C'est quoi la routine? La routine, c'est qu'on sait par exemple qu'il y aura d'abord un Rosh Hashanah, après Rosh Hashanah il y aura un Kippour, après Kippour il y aura un Sukkot, après il y aura un Simchat Torah, et après on va reprendre la vie tous les jours, etc., etc. C'est une routine.
Normal.
Et c'est une routine qui peut très bien tourner, qui est très bien huilée. Ça tourne très très bien, la machine elle tourne très bien. Sauf que c'est quoi le problème? Dès qu'il y a une routine, on ne comprend plus l'enjeu de ce qui se passe. Et on croit que tout est ok, tout est normal. Là, il y a deux options. Soit Kadosh Baruch Hu envoie une épreuve. Bon, quand il a une épreuve, ça casse la routine. Deuxième option, c'est que Dieu ne m'envoie pas d'épreuve, mais que j'essaye de trouver dans la vie de tous les jours, j'essaye de trouver quelque chose pour casser la routine, pour chercher quelque chose de nouveau.
Mais quand il casse la routine, d'accord?
Oui.
toi, tu comprends que tout vient de lui, qu'il faut lui demander de t'en sortir, même si c'est pour des manières qui sont pas rationnelles. Mm-hmm. Ok. Bon. Tu demandes, après il te remet encore, il te casse encore ta routine.
Oui.
Mais moi j'ai compris que ça tout dépend de lui.
Mais pas du
tout. Il vient me casser ma routine encore.
Quand il vient me casser la routine, c'est que j'ai pas assez compris.
Ah, j'ai pas assez compris.
Bien sûr.
Voilà.
Qui dit si ?
On n'est pas prêt de comprendre.
Bien sûr qu'on est très prêt de comprendre.
T'as compris ?
On est très prêt de comprendre. En un instant, ma chère Gouvenir.
Non, non, mais j'entends bien, mais c'est pas clair.
Oui. Encore une fois.
C'est ça qu'on met au cours, pour être clair.
Le but d'une épreuve, c'est pas de faire souffrir une personne.
C'est de lui faire comprendre.
D'accord. C'est de lui faire comprendre
d'où ça vient.
Qu'il y a un enjeu ici.
Voilà.
Et qu'il faut qu'il prie à Kadosh Baruch Hu et qu'il faut qu'il récupère les vraies valeurs.
D'accord.
Alors soit il le fait tout seul, s'il ne le fait pas tout seul, on va devoir le pousser un petit peu pour le faire. On va devoir le secouer un petit peu. Tu comprends ? Si une personne respire de soi-même, tant mieux. S'il respire pas de soi-même, on va devoir le secouer pour qu'il se mette à respirer. C'est comme ça. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu nous secoue. Akadosh Baruch Hu nous secoue pour nous permettre de respirer. Donc c'est justement ce qu'il avait expliqué Sifat Mourazaken. Que lorsque j'ai pris conscience qu'il n'y a pas où aller. Je te rassure, Zerar. Lorsque j'ai pris conscience qu'il n'y a pas où aller. Et que l'heure est grave. Et que si c'est pas Akadosh Baruch Hu, loulé Hashem Shayalanu. D'accord? Si c'est pas Dieu qui est là pour nous sauver, Azai Chaim Blaounu, comme on dit tous les matins. L'égoïme nous aura avalé vivant. Vivant, ils nous ont avalé. On ne réalise pas ça. Alors, si on ne le réalise pas, qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu? De temps en temps, il vient nous le rappeler. Il dit, voilà. Tu vois, là, il aura dit, bientôt. Chut, après, pop, il s'arrête. C'est bon, t'as compris? Bon. On va attendre 5 ans. Dans 5 ans, on revient. On verra si t'as encore compris. C'est ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu sur le plan collectif et sur le plan individuel.
Et quand on comprend, mettons qu'on a un flash, on a un yud, hein, mettons, et qu'on n'arrive pas quand même à avancer.
Oui.
Il est où le problème? Il est dans la volonté, parce que même si on a une volonté,
ça veut dire qu'on n'a pas assez. Ça veut dire qu'on n'a pas. Quand une personne a une épreuve,
même
l'épreuve.
J'ai compris l'enjeu.
J'ai compris. Quand une personne a une épreuve.
C'est un peu notre ego.
D'accord. Je veux qu'on comprenne bien ce que je suis en train de dire.
À un moment donné, on a l'impression
c'est un cours
que
important.
C'est Akadosh Baruch Hu qui va nous bloquer pour.
Est-ce que tout le monde est avec moi?
Ouais.
Oui. Enfin, si y a un point que vous comprenez pas, il faut me le dire. Le but des épreuves, il faut bien comprendre ça. Le but des épreuves. Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous envoie une épreuve? C'est pour nous faire réaliser qu'il n'y a rien de normal. Que c'est pas normal, que ça tombe pas tout seul. Ça, c'est le but d'une épreuve. Et tant que l'épreuve continue, ça veut dire qu'on n'a pas encore assez réalisé. À Kadosh Baruch Hu, on n'envoie pas des épreuves comme ça, bêtement. C'est pas, il faut attendre, je baisse la tête, j'attends que ça passe, ça y est, c'est fini, pas encore, bon, j'avance, ça y est, c'est fini. Non, c'est pas pour ça. Quand à Kadosh Baruch Hu, on envoie une épreuve, ça veut dire qu'il attend de nous qu'on analyse l'épreuve. Et qu'on essaye de voir quel message se cache derrière l'épreuve. Tant qu'on n'a pas compris le message qui se derrière l'épreuve ne s'arrêtera pas.
Oui.
D'accord.
Tout au plus,
l'épreuve se mettra en pause. Mais elle reviendra. Pourquoi elle reviendra? Parce qu'il y a un message derrière une épreuve. C'est ce qui fait expliquer ici la demande à laquelle. C'est très simple. Le message, c'est à chaque fois réaliser qu'il me manque quelque chose. Alors après, ça peut être grand ou petit, mais je dois réaliser qu'il me manque quelque chose. Et c'est là que quand je réalise qu'il me manque quelque chose, c'est là que je me tourne vers Dieu et je dis Dieu, aide-moi. Ça y est, on a tout gagné, c'est bon, l'épreuve s'arrête. Elle s'en va aussi rapidement, même plus vite qu'elle est venue. On est d'accord?
Oui.
Bon. Si on a bien compris le début, maintenant on peut avancer rapidement.
On manque d'oxygène, disons.
Ou basé, yorer, rachamim, elyonim, yud gimel, midat rachamim. Grâce à ça, grâce au fait qu'une personne a réalisé l'enjeu, il arrivera à éveiller facilement. Rachamim, elyonim. La miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la miséricorde? La miséricorde, elle intervient lorsqu'on comprend que la logique ne peut plus nous sauver. D'accord? C'est comme, aujourd'hui, on appelle ça la grâce. La grâce présidentielle. C'est quoi la grâce présidentielle? La grâce présidentielle, c'est quoi? C'est quand on comprend que juridiquement, il n'y a plus rien à faire. Et là, va intervenir la grâce présidentielle. C'est ça, Rachamim. Mais sauf que, celui qui directement il a un jugement, qui dit directement, attendez, ne vous prenez pas la tête avec votre jugement, directement la grâce présidentielle. Il dit, non monsieur, ça marche pas comme ça. Pour demander la grâce présidentielle, on doit d'abord réaliser que c'est la seule option qui nous reste. Donc il faut d'abord passer par tout le processus.
Ah oui, ça on savait pas.
D'accord? Quoi ça on savait pas?
Parce que c'était la seule option qui nous reste.
Tu comprends? Celui qui directement, dès qu'il a un problème, il dit, attendez, ne me jugez pas, ne vous dérangez pas, je vais directement grâce présidentielle.
On croit qu'on peut y arriver tout seul.
Ça marche pas. Il y a des étapes. C'est la même chose. On ne peut pas directement demander Rachamim à Kadosh Baruch Hu. Il faut d'abord essayer.
C'est ça le message.
Il faut d'abord comprendre qu'on est loin.
Personne qui a l'humilité.
Bon, il faut comprendre que t'es loin.
Comment ?
Pourquoi tu veux comprendre que t'es loin ?
Pourquoi je veux comprendre que j'ai loin ?
Oui.
Voilà, c'est pour ça qu'il faut réviser le chapitre 7. Il y a eu 5 cours sur le chapitre 7. Vous pouvez les réviser d'ailleurs, ils sont online.
Tu réalises que t'es loin quand t'arrives pas à passer l'épreuve.
Je réalise que je suis loin quand je sens que la vitesse ne passe pas. Quand je sens que je fais une fila et que ça me concerne pas.
On a vu dans le Tania que c'était le boulot du Benoni, c'est ça ?
De quoi ?
La première, elle passe pas.
Justement. Mais attention, oui. Mais ce qu'il y a de particulier chez Belloni, c'est que ça le dérange.
Bien sûr que ça le dérange.
Très bien.
Donc, il faut
donc c'est bien. C'est bien, c'est très bien. C'est très, mais c'est pas grave.
Ouais, c'est pas grave.
C'est bien. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça me dérange. C'est que ça me dérange. Le problème qu'on a, c'est qu'après tellement on est pris dans un piège, c'est que ça nous dérange même plus.
C'est normal après.
J'en ai rien à faire. Ça me dérange pas, ça me fait ni chaud, ni froid. Et là, vient l'épreuve. Là, vient le Perek Zayin. Alors là, Perek Zayin, c'est pas une épreuve qu'Akadosh Baruch Hu nous met, c'est une épreuve qu'on va s'imposer. C'est une épreuve, c'est une prise de conscience qu'on va s'imposer. Pour ramener la réalité à ses yeux. Et alors, je vais comprendre que je suis un naze, je fais quoi maintenant ? Ben c'est très simple. Si tu as compris que tu es naze, c'est le meilleur moment pour demander la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. C'est le meilleur moment qui puisse exister, parce que je comprends que c'est la seule option qui me reste. Donc, anim shachot miratzon elyon baruch hu anirmaz bekutso shel yud shel mala mala miprinat hashpa anishpat motiot shem avayah.
Devant la mère des gens, j'ai que le groupe est divisé en quatre.
Oui.
Et que le groupe qui a prié parce qu'ils ont vu qu'ils avaient plus d'issue que Pharaon leur tombait dessus.
Ouais.
Il
était pas bon non plus.
Il était pas bon.
Bien sûr.
Donc tu vois.
Parce qu'à un certain moment, c'est pas la prière le but. Le but, parce qu'ils priaient par routine. Le but, c'est de comprendre qu'il y a quelque chose qui est plus fort que tout ça. C'est quoi ce qui est plus fort que tout ça? Dans le nom de Akadosh Baruch Hu, on a combien de lettres? On a 4 lettres. Yud, Ke, Vav, Ke. On vous a expliqué la semaine dernière. Vous vous rappelez? Yud, Ke, Vav, Ke. Donc on a expliqué, ça correspond aux 4 morts, etc., etc. Très bien. Alors, au-dessus de la lettre Yud, vous verrez dans le Sefer Torah, hein, au-dessus de la lettre Yud, on a hein, ce qu'on appelle le Kutso Shel Yud.
Le quoi?
Le Kutso Shel Yud.
D'accord? La pointe.
La pointe du Yud. Vous avez un stylo?
Oui.
Il y a un stylo?
C'est un crayon, ça. Pareil.
Ah,
parce que là, on va voir avec ça. Ça écrit pas bien. Voilà. Voilà. Ça, c'est un yud.
Voilà.
Non, c'est ça. Ça, c'est un yud. D'accord ? Bon, ça, c'est. Il fallait pas le faire. Et là, il y a une pointe. C'est comme une antenne. Vous voyez l'antenne, là ? D'accord ? Dans le Sefer Torah, vous remarquerez. Bon, là, je l'ai fait en grand, là, mais dans le Sefer Torah, il y a toujours une petite antenne. D'accord. Cette petite antenne, on appelle le Kutso Shel Yud. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette antenne? Ce qu'elle a de particulier, cette antenne, c'est que d'elle, en vérité, va venir tout le nom de Yudke Vafke. On avait expliqué la semaine dernière, ça correspond au flash. Très bien. Explique la Dmorazaken. À quoi correspond ce Yud? Ce Yud correspond, justement, à la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu qui dépasse l'entendement. Parce que dès qu'on est dans le Yud, on est déjà dans la Chorma. Donc on est déjà dans la Chorma. Après, on a expliqué qu'on a la structure intellectuelle, la structure sentimentale, etc., etc. C'est-à-dire, on est déjà dans l'intellect. Donc si tu es déjà dans l'intellect, même dans le sentimental, il y a déjà une structure.
Ouais.
Donc s'il y a une structure, tu peux pas casser la structure. La seule chose que tu peux faire, c'est amener une contre-vérité. J'ai une vérité, j'amène une contre-vérité. Ça, tu peux le faire. Mais si t'as pas de contre-vérité, t'es coupable. T'es coupable, il y a rien à faire.
Non, sauf celui qui est très brillant, il peut parce qu'il a une grande aura.
Eh ben non. Justement. Là, avec le père Exaïn, on comprend qu'il n'y a pas impossible de contrer cette vérité. Donc tu peux pas. On t'a expliqué qu'avec une avéra de la Shonara, t'as fait un nuage gros comme si tu étais à l'église. Je fais quoi là? Imagine. Alors j'ai dit la Shonara, je suis rentré 10 fois dans l'église, mais c'est fini, il y a le cercle, on discute même plus, j'arrête. D'accord? On perd notre temps. Alors justement, c'est que la Dmora Zaken. Ça veut dire que là, on vient de réaliser, d'accord, on vient de réaliser que même au niveau du Yud, même au niveau de l'intellect, normalement l'intellect il est capable de trouver toutes les idées possibles et inimaginables. On a compris que même au niveau de l'intellect, il n'y a pas d'idée. Donc s'il n'y a pas d'idée, ben, il ne peut pas avoir de sentiment. S'il n'y a pas de sentiment, on ne peut pas passer à l'action. Il n'y a rien. Alors qui c'est qui peut me sauver? La seule personne qui peut me sauver, c'est la pointe du Yud. La pointe du Yud, c'est ce qui est plus haut que l'intellect, ce qui dépasse l'intellect. La volonté. C'est la volonté.
La détermination.
La mienne. D'accord. Donc par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est la miséricorde de Kadosh Baruch Hu. La grâce.
Pourquoi?
La grâce présidentielle. D'où elle provient la grâce présidentielle? Mais d'où elle provient? Elle provient pas de la logique. Non mais attendez. Elle vient pas de la logique, c'est une volonté. C'est pour ça que des fois le président l'accorde, des fois il ne l'accorde pas. Et si on lui pose la question, mais pourquoi cette fois-ci vous l'avez accordé à telle personne oui et à telle personne non? En général, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, parce que par définition, une personne qui a besoin de la grâce présidentielle, c'est une personne que logiquement, on ne doit pas le sauver. Alors pourquoi telle personne, le président a dit oui, l'autre personne a dit non? On n'a jamais vu un président qui a dit, je ne donne pas la grâce présidentielle parce que ça. Parce qu'il n'y a pas de raison.
Il peut pas se justifier.
Exactement. Donc ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire que la grâce présidentielle, par définition, n'est pas liée ni à l'intellect, ni au sentiment. D'accord? À quoi elle est liée? Elle est liée à la volonté. C'est une volonté. Il peut dire oui comme dire non. Pourquoi?
Excuse-moi, dans le cas d'Akadosh Baruch, je suis d'accord. Dans le cas du président, je suis pas d'accord.
Je suis pas d'accord. C'est juste un parallèle. Il y a forcément
c'est un parallèle.
Oui, mais
d'accord.
À un moment donné, pareil, il marche.
Ah ben non, c'est un parallèle parce que c'est un parallèle.
Le président, pourquoi il a accordé la grâce à celui-là et à celui-là?
Il va avoir des voix.
C'est un sentiment qui vient de raisons inconscientes par rapport à son enfance.
Ça y est, bah, excuse-moi. Jacob, ouais. Si c'est inconscient, c'est déjà le yud. C'est déjà le yud. L'odiud.
Oui,
parce que les sentiments du hé, les sentiments du vav, pardon, c'est les sentiments qui sont générés par l'intellect. Eh oui.
Il y a une réflexion.
Un sentiment profond. Ah oui, attention. Attention.
Dans le cas du président.
Un sentiment profond, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Donc la grâce présidentielle, on a expliqué.
Qui dépasse ou qui tu le comprends
non,
pas.
Qui est plus fort. Très bien, ça veut dire que c'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose qui a été réfléchi, qui a été construit.
La grâce présidentielle, c'est pas une construction. La volonté de Dieu, c'est tout.
Oui, non, bien sûr. Voilà. Mais c'est pour amener l'exemple. Parce que pourquoi je parle de grâce présidentielle? Parce que c'est un rapport avec quoi? Avec la miséricorde, avec Rachamim. C'est quoi Rachamim? C'est quoi la différence entre Chesed et Rachamim? Très simple. Entre la bonté et la miséricorde. C'est très simple. C'est que la bonté, c'est-à-dire que je ne vois pas le mal. Je donne, je ne vois pas le mal. Ça, c'est la bonté. D'accord? Là, on est arrivé à un stade qu'on ne voit plus le bien. Et que même si je veux voir le bien, je comprends qu'il y a un vrai problème. Et que si je vois au niveau de Chesed, il y a un problème. Il n'y a pas de bien. Donc je suis obligé de faire appel à la miséricorde. C'est quoi la miséricorde? La miséricorde, c'est je vois qu'il y a du mal, et quand même, je choisis de prendre le bien. Je vois que la personne est coupable, et quand même, je vais le déculpabiliser. D'accord? J'ai vraiment le couteau. D'accord? Donc, je vois qu'il y a un problème, et quand même, je vais passer outre. Ça, c'est Rachamim, ça, c'est la miséricorde. Vous avez compris la différence entre la miséricorde et la bonté? La bonté, c'est que je vois que du bien. Vous avez des gens, ils voient que du bien autour d'eux. Le mal, ils n'ont jamais vu. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils n'ont jamais vu. Des gens comme ça, il y a des gens autour d'eux, ils sont entourés de gens tordus, mais ils n'ont jamais vu. Ils n'ont rien vu. C'est quoi la miséricorde? C'est pas ça, la miséricorde. La miséricorde, c'est je vois le fait que la personne est tordue. D'accord? Et pourtant, je continue à l'aimer. Je continue à m'occuper de lui. Alors, on explique comme ça. On avait fait un cours une fois un Shabbat après-midi dans lequel on expliquait qu'il y avait trois niveaux de Havat Israël. Il y a le Havat Israël, je vais les citer, comme le Baal Shem Tov, Havat Israël comme Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, et Havat Israël comme l'Admor HaZaken. Havat Israël comme le Baal Shem Tov, d'accord, c'est évident. Havat Israël comme le Baal Shem Tov, c'est quoi? On dit que le Baal Shem Tov ne voyait que le bien. Ça veut dire, rien dans un endroit, hein, Rechaïm, etc., il voit pas. Il a vu que la Neshama que le gars il avait en lui. Maintenant, la Neshama, elle est couverte, elle est tachée, tout ce que tu veux, elle est encrassée, elle est endormie, ça fait des années.
Il a vu
l'étincelle. Il dit, ah, bravo, dis juif, c'est bien, quand la cavote, c'est bien. Ça, c'est le Baal Shem Tov. C'est beau.
Je sais pas comment il fait.
D'accord, enfin, c'est beau.
C'est un niveau, hein.
Ça veut dire qu'il y a la personne, il a fait les 400 coups, d'accord? Il a pas vu les 400 coups, il a vu un demi-coup, c'est tout ce qu'il a vu. Comment il a fait? Je sais pas comment il a fait. C'est le Baal Shem Tov. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, c'est connu que lui, il s'arrangeait toujours pour justifier les gens. C'est-à-dire, par exemple, du style, l'histoire est très connue,
oui.
Il voyait, une fois il a vu un cocher, enfin il y a plein d'histoires, d'accord, un cocher en train de mettre les tefilines sur sa charrette, du style où le gars, même pas, il a pris le temps d'aller à la synagogue. Il a mis les tefilines entre deux courses, d'accord. Donc instinctivement, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, attends, ça se fait pas. Qui fait celui-là, il peut pas prendre le temps, un 10 minutes, un quart d'heure, au moins le faire dans une synagogue, d'accord? Mais attends, il fait entre deux courses,
ouais.
Alors le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il s'est tourné quand il a vu ça, et tout de suite, au quart de tour, il s'est tourné vers Akadosh Baruch Hu, il a dit, regarde Akadosh Baruch Hu, tes enfants, même lorsqu'ils travaillent, ils mettent les tefillin. Qu'est-ce qu'il vient de faire, là? Il vient d'essayer de trouver un élément positif dans le mal, c'est-à-dire qu'il a vu le mal, pas comme le Baal Shem Tov. Il a vu le mal, mais il a essayé de le rendre en bien. On dit que l'Admor HaZaken, c'est encore un troisième niveau. L'Admor HaZaken n'essayait pas de rendre bien ce qui était mauvais. Ah, le gars, il a mis les tefilines sur sa charrette entre deux courses. Tu vas pas dire que c'est un sadique. Attends, faut pas exagérer non plus. Il y a des réalités, on va pas passer à côté. Alors quoi? L'Admor HaZaken avait l'habitude de dire qu'on doit aimer un juif avec ses défauts. Pas malgré ses défauts. Avec ses défauts. Ok, il a des défauts. Alors, et alors? C'est pas que je les ai pas vus. Le Bachentov ne les a pas vus. Alors, Bill Levi-Strauss de Brezhnev, il les a vus, mais il a essayé de les expliquer. Comme on l'aurait fait pour soi-même. Bachentov dit non. Le Morazaka dit non. Ils sont là. Mais je l'aime quand même. Parce que c'est un juif et il a une neshama. J'ai vu ses défauts. Bon. C'est exactement ce qu'on dit. C'est ça, Rachamim.
On comprend le 1 et le 2, on comprend pas le 3.
Bah, c'est ça, Rachamim. C'est ça, la miséricorde.
Le gars, il est en train de faire un trou dans le bateau, en train de couler. Tu vois, ouais. Je l'aime.
C'est ça, Rachamim. C'est ça la miséricorde. C'est quoi la différence entre Chesed et Rachamim? Chesed, c'est un petit peu comme le Baal Shem Tov et Rabbi Levi Yitzchak de Lourditchev. Chesed, c'est la bonté. Le Baal Shem Tov ne voit que du bien, comme Avraham Avinu. D'accord? Rabbi Levi Yitzchak de Lourditchev, il a vu du mal, mais il s'est arrangé pour que le mal soit du bien.
Comme Yitzchak.
D'accord? Bon. Ah, d'accord, ça va. C'est-à-dire, il a vu le mal, mais il s'est arrangé pour qu'on voit plus le mal. Du style, d'accord. Il voit son fils Esav en train de faire les 400 coups, mais il s'arrange pour dire que son fils Esav, c'est un grand sadique.
Voilà.
Comme Yitzchak. D'accord? Et là, on va voir un Yaakov. Yaakov, quelqu'un qui est très terre à terre. Qui dit, il y a du mal, faut pas se cacher les yeux. Il y a du mal, le mal est là. Mais, on va quand même choisir le bien. Et se focaliser sur le bien. Ça, c'est une grande qualité. Ça, c'est le plus dur. Et c'est ça, Rachamim. C'est quoi la miséricorde? C'est pas que je ne suis pas conscient qu'il y a du mal. Je vois le mal. Et je sais que c'est du mal. Sinon, je me cache les yeux. C'est pas bien.
C'est pas indigne.
D'accord? Mais, je me focalise sur le bien. Je décide de choisir quand même le bien. Je vois que le gars il est coupable, qu'il devrait être mis à mort. Mais quand même, grâce présidentielle.
Ça va plus loin parce qu'il voit du bien là où il n'y a que du mal.
Exactement, oui, mais il y a toujours un peu de bien.
Oui.
D'accord. Donc je prends dans les mots. C'est ce qu'il dit Edmond Razakhen. C'est quoi la pointe du Yud? C'est quoi la pointe du Yud? La pointe du Yud, c'est essayer de trouver, vous imaginez celui-là, la pointe du Yud, ça veut dire que le gars, Yud, Ké, Vav, Ké, tous les quatre lettres, elles sont cuites, il n'y a rien. Il a effacé le nom de Dieu. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé la pointe du Yud. Tout ce qu'on a trouvé. Et qu'est-ce qu'on dit? C'est ça qu'il faut savoir. Non mais, quand on a, c'est un sentiment, c'est une très belle image. Quand on demande à Kadosh Baruch Hu, Vaya Avor, d'accord, demain, quand on dira Vaya Avor, on dira Hashem, Hashem, Panav Vayikra, c'est cette image qu'on doit avoir. Qu'avec nous, Averot, on a effacé les quatre lettres.
On s'est préparé.
D'accord. Non mais attendez, vous imaginez l'image.
Non, mais c'est ce que je dis, Vaya Avor, c'est après la fila.
Justement, non mais, on a effacé les quatre lettres. D'accord? On a effacé les quatre lettres, on a tout effacé. Il reste qu'une pointe. Je dis, bon, voilà, Dieu, il reste la pointe. C'est celle-là qui peut me sauver, c'est tout. Bien sûr que c'est après la tefila. Parce que c'est seulement une fois qu'on a fait l'amida et qu'on a compris qu'on est loin du compte. C'est là qu'on peut faire les tachanounim.
Mais non, ça doit être bien faire.
Attends, mais pas du tout. Pas du tout, encore une fois.
Mais d'abord, comme... je prends conscience de mon état.
Eh ben non.
Et ensuite, justement. Eh ben oui.
C'est le point culminant. Qu'est-ce que pensent les gens? Regardez. On va reprendre la structure de la tuila. Dans la structure de la tuila, qu'est-ce que vous avez?
Quand t'as fait tes demandes, après, pour qu'elles soient accordées, tu demandes la miséricorde.
On passe beaucoup de temps à l'oral aujourd'hui, mais bon, je fais comme dans mon habitude dans les chapitres de Yigaret HaTshuva, c'est que le premier cours, on reste beaucoup à l'oral, et après, le cours suivant, sera plus sur texte, parce qu'on est obligé de, planter le décor.
Tu dis que si, pour que la prière, elle passe, faut que tu sois dans un état
d'esprit. C'est très simple.
Un état d'esprit.
Qu'est-ce qu'on fait dans la structure de la tuila? D'accord? Dans la structure de la tefila, on va tout d'abord parler de la nature, après on va parler des anges, après on va avoir des demandes personnelles dans la mida, et après seulement on fait tachanim, on demande pardon. C'est pas normal, c'est comme ça qu'on doit faire.
Ouais, ouais.
Imaginez-vous que vous avez blessé le roi, vous avez blessé le président, vous avez blessé le maire, et que vous devez aller le voir, mais vous l'avez blessé. Vous devez aller le voir pour lui demander des demandes personnelles. Première chose que tu fais avant de lui parler, c'est de lui dire, excusez-moi pour ce que je vous ai fait.
Voilà.
Et après, je dis, bon, maintenant que vous m'avez, est-ce que vous m'excusez? Bon, bah, je voudrais vous demander quelque chose de nouveau. Avec Akadosh Baruch Hu, on fait pas ça. D'abord, on demande, après, on s'excuse. Pourquoi on fait ça? C'est très simple. Parce qu'on ne peut pas s'excuser tant qu'on ne réalise pas qu'on doit demander à Akadosh Baruch Hu, d'accord, qu'on a besoin de lui. Et une fois qu'on réalise qu'on a besoin de lui, et qu'on comprend que sans lui, personne ne peut nous aider, je dis, mais attends, mais avec tout ce que j'ai besoin d'Akadosh Baruch Hu, je me suis permis de l'embêter. C'est très grave. Là, je peux demander pardon. Tant que je réalise pas que j'ai besoin de lui, j'en ai rien à faire. C'est une formalité. Je fais par routine.
Il faudrait faire une prière personnelle, avec des mots simples, du genre je suis loin du compte, il n'y a que toi qui peux me sauver, etc., etc. Tu vois, de manière à se mettre bien dans un état d'esprit. Et ensuite, tu fais ton truc. Parce que, avec la structure qu'il y a, tu n'arrives pas du tout à
c'est ça. Justement le but. C'est d'abord, je demande ce que j'ai besoin, pour réaliser que je suis demandeur, et que j'ai besoin de quelque chose. Et c'est seulement une fois que je réalise que j'ai besoin d'un Kadosh Baruch Hu, que là, par derrière, je dis bon, excuse-moi. Si tu ne réalises pas que tu as besoin d'une personne, tu vas jamais t'excuser. Par exemple, un homme il s'est fâché avec sa femme.
Oui, mais quand même, c'est...
Il a fait une bêtise, il va s'excuser. D'accord? Il peut pas s'excuser tant qu'il n'a pas compris qu'il a besoin de sa femme.
c'est pas mon égoïste.
Non, c'est pas égoïste, non, pas du tout. Non, mais qu'il a besoin d'un sens positif. Qu'il a besoin. Qu'il peut pas vivre sans elle. Et que c'est important ce qui s'est passé.
Ouais, c'est ta vraie bouteille d'oxygène.
Parce que sinon, elle n'en a rien à faire. Sinon, qu'est-ce qui va se passer la fois suivante? La fois suivante, il va se lâcher, il va dire toutes les façons, j'en ai rien à faire, j'ai pas besoin d'elle. Je fais ce que je veux, c'est moi le patron ici.
Et que des jeunes maris,
c'est ça. Bon. Donc on a expliqué, c'est quoi l'image? L'image ici, c'est que on se dit le yud, le he, le vav, le kef, il reste plus rien. Mais qu'est-ce qui reste? Il reste la graisse présidentielle, c'est la pointe du yud. Peut-être elle va nous sauver. C'est ça les 8 Guillaume et Tatarachamim.
Je sais qu'il est tard.
Et c'est pour ça qu'on accorde. Sujet,
mais c'est pas clair.
C'est pour ça qu'on accorde une grande importance au Yud Guimel Midat Arachat. C'est pour ça
qu'on est. On est hors de la logique là.
D'accord.
C'est pas clair. Pour ça que... Comme tu l'as dit, quand t'as fait du mal à quelqu'un, tu vas le voir, tu dis écoute, j'ai fait une faute impardonnable. Je te demande quand même de pardonner. Et ensuite, éventuellement, c'est quelque chose de mal, tu lui demandes, pas le contraire.
D'accord. C'est pour ça que dans l'Amida, au début de l'Amida, on demande de la Kadosh Baruch Hu nous pardonner. On dit Slachanavnu Kiratanu. Mais l'essentiel des Tachanunim. L'essentiel des Tachanounim est après la Amida.
C'est pas logique.
Si c'est logique.
Non.
Justement, c'est ce que j'ai expliqué.
C'est
que la logique est la définition même de ce que tu diras, Rachamim, de la miséricorde, exactement. C'est que la miséricorde peut intervenir seulement lorsqu'on a compris que c'est la seule issue. Oui. Pour comprendre que c'est la seule issue, il faut d'abord explorer les issues. Quand on explore les issues, pendant l'Amida.
Après la fila.
Pendant l'Amida, je dis voilà, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ci. Après moi, je dis mais attends. Et il va jamais me les donner. T'as vu ce que j'ai fait?
Oui, d'accord, le premier jour, mais
à ce moment-là,
le premier jour, d'accord, mais pas le deuxième.
D'accord? C'est comme le gars, il a blessé sa femme, après tout d'un coup, le lendemain, il vient comme si de rien n'était, il lui dit, bon, voilà, j'ai besoin de ci. Je dis, mais attends, il va jamais me les donner. Et puis je l'ai fait. Je dis, bon, écoute, tu sais, je suis vraiment désolé parce que je t'ai fait la dernière fois.
C'est autre chose, c'est le premier jour, mais le deuxième jour, d'accord. Je fais la même chose, il dit, attends, tu m'as fait le coup hier. Je comprends, c'est...
Bon, ça trouve, c'est une autre question.
Ah, elle est rancunière, en plus.
Non.
Ah, je trouve qu'on a plus de cabanes.
Le but.
Comme ça, avec des
le but.
Non, mais là, c'est... Ouais, mais...
Ah bah oui.
Non, mais ça c'est un manque de compréhension de des mots de la fille.
Ah bah je suis d'accord avec toi.
Le but d'Akadosh Baruch Hu, le but d'Akadosh Baruch Hu.
C'est que je suis contre 99% des gens, donc c'est ça que je te dis.
C'est pour ça que je dis que je dis toujours que comprendre la tefila c'est important. Aujourd'hui il y a des sidourim avec traduction, c'est très bien, bon, pourquoi pas. D'accord? Mais je pense à quelque chose de beaucoup plus important dans la tefila. La tefila c'est le moment dans lequel on communique avec Akadosh Baruch Hu. Alors tu peux avoir une personne qui comprend parfaitement la traduction des mots qu'il dit, mais qui communique pas avec Akadosh Baruch Hu. Il communique avec un livre, avec des mots, mais il communique pas avec Akadosh Baruch Hu. Il comprend pas qu'on parle de lui, qu'on parle de moi. D'un autre côté, vous avez une personne qui va comprendre peut-être quelques mots du schéma, de la mitzvah, par-ci, par-là, mais il comprend qu'on parle de lui, il va parler à Kadosh Baruch Hu. C'est évident que le deuxième a fait la tefila, le premier, c'est pas une tefila qu'il a fait, il a lu un poème.
Même besoin de livre, alors.
D'accord. Non, on a besoin d'un livre parce qu'on a besoin d'une structure.
Oui, mais...
Ça garantit... Parler, mais le but de cette structure, c'est ça.
Bien sûr que si.
Alors, dans les mots.
C'est pour ça que finalement, tu comme faire qu'il avait rien fait. C'est pour ça qu'il faut faire la tefila que lorsque tu
donc, je suis en train d'expliquer.
Que tu es prêt à la faire.
C'est seulement avec... C'est seulement avec cette pointe du Yud.
Son niveau, non.
Faut la faire, faut quand même.
Non, mais son niveau...
Faut toujours faire la tefila. Non, faut toujours faire la tefila. Mais... Voilà, comme je l'ai expliqué, le but c'est de communiquer avec Kadosh Baruch Hu. Maintenant, naturellement, quand tu fais la même chose, tu manges trois fois par jour le même repas, tu vas pas t'attendre parce que trois fois par jour, tu vas dire waouh, il est bon ce repas.
C'est bon, si c'est des sushis,
d'accord. Même des sushis.
Tu vas manger.
De manger trois fois par jour.
On s'en lasse pas.
Bien sûr, tu t'en lasses. Mais c'est fait exprès, c'est voulu, parce qu'on se dit que sur toutes les fois qu'une personne va dire l'amida, ben, il y aura un certain nombre de fois où il sera vraiment sincère. Une fois sur une bracha, une fois sur une autre bracha, une fois sur un mot, une fois sur un autre mot. Et donc avec tout ce total, on va essayer de... Ben, globalement, bah ben, oui. Parce que sinon, il n'y a pas de sens, excusez-moi. Moi, si j'avais été à la place de Dieu, ben, logiquement, hein.
Tu fais une fois après.
Une fois par semaine.
Non, mais une seule fois.
Une fois par semaine. Ouais, mais la classe, tu vois, mais un truc 3 heures.
Et bien, avec bien, des chants, tu vois,
des chants, etc. On prend le temps, chaque mot, les commentaires et tout.
34 montées.
Ouais, 3 fois par jour.
Et tout le monde monte.
Il y a un problème. Allez, hop, tout le monde monte à la Torah. D'accord. Mais oui. Mais sauf qu'un cadeau de jour ne veut pas ça. Parce que c'est très bien que la routine est importante. C'est un travail de tous les jours. Donc je reviens ici. Je reviens à ce qu'on a expliqué ici. Ça veut dire. Ce qu'a expliqué la Dmoura Zaken, c'est que justement, le but de toutes ces claques qu'on a prises dans le Perek Zayin, c'est pour arriver à la conclusion qu'on est loin du compte, pour arriver à la conclusion qu'on est des demandeurs, et qu'on est les obligés d'Akadash Baruch Hu. D'accord, c'est réaliser qu'on est les obligés d'Akadosh Baruch Hu. Dans la vie, on a envie d'avoir le sentiment qu'on est l'obligé de personne. Je fais ce que je veux. Là, la Amida, là, le Père Exaïm vient me rappeler, si, oui, je suis l'obligé d'Akadosh Baruch Hu, je suis loin du compte. Une fois que j'ai réalisé ça, là, je peux demander à Akadosh Baruch Hu de m'aider. De m'aider, d'accord, de manière illogique. De manière qui dépasse la logique, qui est plus forte que la logique. D'où va venir cette aide? Cette aide va venir de la pointe du Yud. La pointe du Yud qui correspond à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Avec la volonté, on peut se retrouver à faire des choses qui ne sont pas logiques. Tu as quelqu'un, il t'embête, il n'arrête pas de t'embêter, et pourtant tu continues à l'aimer. Pourquoi tu l'aimes? Parce que c'est la volonté c'est plus fort que la logique. C'est comme ça. Quand on veut quelque chose, ça dépasse l'entendement. C'est la même manière, c'est comme ça qu'on parle à Akadosh Baruch Hu. C'est ça le Yud Gilam Yitzhak Rami. On dit, écoute Akadosh Baruch Hu, peut-être que sur le plan de la logique, on n'est pas des bons enfants. On n'assure pas. Mais sur le plan de la volonté, on te demande d'avoir envie toujours de nous. Et nous, on va essayer de faire ce qu'on peut. Ça, c'est comme ça qu'on parle à Kadosh Baruch Hu. Velachen, j'ai encore deux lignes, on s'arrête. Velachen, c'est pour ça. Ayud Gimel Midot Arachamim Menakim Kol Abgamim. C'est pour ça que les 13 attributs de la miséricorde peuvent effacer, peuvent nettoyer Kol Abgamim tous les défauts. Même des défauts que normalement ne peuvent pas être nettoyables. Comme par exemple, une personne qui a fait une avéra en faisant exprès. Zadon, Mézid. D'accord? Est-ce qu'il pouvait amener un sacrifice à l'époque du Beth Amikdash?
Non.
Donc s'il peut amener un sacrifice, ça veut dire que, structurellement parlant, il n'y a pas de teshuva pour lui. Il est impardonnable.
Si, par la mort.
Non. D'accord, mais ça veut dire, de son vivant, il est impardonnable. Et pourtant, cette personne-là, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, il te reste une option. Par les Yud Gimel, par les options habituelles, par le Yud, le He, le Vav, le Ke, tu peux pas amener de sacrifice. T'as fait en faisant exprès, qu'est-ce que tu veux? T'as fait exprès, tu savais que ce que tu faisais, non? Majeur, vacciné. Il y a une seule option qui lui reste. C'est quoi l'option qui lui reste? C'est les 13 attributs de la miséricorde. C'est la miséricorde. La grâce présidentielle. Et ça, ça peut effacer Kol Abgamim, toutes les tâches. Sous-entendu, même les tâches, d'accord? Même les avérotes qu'on a fait en faisant exprès. Ou que Moshe Katoub, comme c'est écrit, on le dit dans le Vayavor.
Même le meurtre.
Nocé, regardez. Nocé, Ravon, Akadosh Baruch Hu pardonne, Ravon, va pécha, venake. D'accord? Enfin, il ne rentre pas dans Chata ici, parce que Chata c'est évident. On a Ravon, pécha et Chata'a. C'est quoi la différence entre Ravon, pécha, Chata'a? On va commencer par le plus simple. Chata'a, c'est quoi Chata'a? C'est une faute qu'on a fait sans faire exprès. C'est pour ça qu'il le dit même pas ici, parce que ça c'est évident que Dieu va nous pardonner. Il n'y a pas de tridouche.
Mais il y a même des révises, quoi.
Pécha, c'est quoi pécha?
Avec conscience.
D'accord, c'est avec conscience.
Péché, c'est
d'accord, péché. Ravon, c'est quoi Ravon?
Les fautes.
C'est plus qu'une conscience, c'est une préméditation. Il a prémédité sa vera. Il a préparé sa vera. Il vit sa vera. Il vit sa vera. Il s'est fait un kiff. Et qu'est-ce qu'ils ont dit dans le Vaya Avor? D'accord? Qu'est-ce qu'on dit dans le Vaya Avor? Nocé Avon va pécha vechata'a. Akadosh Baruch Hu est capable de supporter. Avon, les fautes qu'on a kiffées, va pécha, les fautes qu'on a fait, avec la logique, qu'on a accepté de faire. Vachata, et bien sûr, les fautes qu'on a fait sans faire exprès, venake. C'est quoi venake? Il nettoie tout ça. Ça, le sacrifice ne pouvait pas le faire.
Il cite des crescendo, d'accord, pêche, hein, si tu remarques bien.
Bien sûr.
C'est, ouais, mais normalement, oui, dans la logique, ça devrait être.
Bah, pas du tout. Crescendo. Ah non. Parce que le dernier, c'est évident. Quoi. Plus on avance, plus c'est évident.
Ouais, mais justement.
C'est pour ça que la Dvorazak est ici dans ces mots.
Par tout le reste.
D'accord.
On demande directement la miséricorde. Pourquoi faire les sacrifices? Pourquoi?
Justement, c'est la réponse qu'on expliquait ici. Logique. C'est qu'on ne peut pas demander la miséricorde tant qu'on n'a pas réalisé que c'est la seule option.
Bon, oui. Non, c'est peut-être qu'il y a une option avant qui est suffisée. On va pas aller chercher la miséricorde. La miséricorde, quoi qu'il arrive.
D'accord. Tu as raison, on n'a pas toujours besoin de miséricorde.
C'est que tu ne fais pas les choses par
désespoir.
Ça veut dire que les gens qui comptent directement sur le miracle, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que on peut pas compter directement sur le miracle. On peut compter sur le miracle seulement lorsqu'on comprend que c'est le seul recours.
C'est-à-dire qu'on a fait des efforts, qu'on a essayé de faire quelque chose, et que malgré ça...
Voilà.
Mais la miséricorde ne peut venir finalement que s'il y avait eu il y a le reste avant, peut-être.
Bien sûr, c'est exactement ça. Ouais. C'est pour ça que les tachanoun ne peuvent venir seulement après la Amida. Après que la personne a réalisé qu'il est demandeur, qu'il est l'obligé d'Akadosh Baruch Hu.
Parce qu'on a fait la Amida après, c'est encore mieux.
Mais non, t'as pas compris, encore une fois.
Non,
la Amida me permet de comprendre que j'ai besoin.
Non, mais
me permet de structurer mes besoins.
La miséricorde, c'est l'ultime.
Attends, faut dire, tu vois, Amida, c'était Tefila, Tefila, c'était Filine, Filine, c'est relié.
si tu te relis à Kadosh Baruch.
J'ai compris, bien sûr.
Bah, en quoi je...
Je me relis à Kadosh Baruch. Mais je ne peux pas demander... Mais la Mida, c'est pas un moment dans lequel je demande la miséricorde à Kadosh Baruch. C'est pas le moment.
Ce serait plus logique.
Pas du tout. C'est un moment... La Mida, c'est le moment dans lequel je parle avec Kadosh Baruch.
La miséricorde, c'est en dernier recours. Celui qui faute, il a même pas envie de faire la Mida.
Celui qui?
Celui qui faute, il a même pas envie de faire la Mida.
Bah oui, il est extrêmement...
Il est...
Mais c'est vrai, il a pas envie de faire la Mida de seconde. Dans la Mida,
dans
la Mida, tu demandes à Kadosh Baruch Hu des besoins vitaux, des besoins fondamentaux de la vie. Donc t'es obligé de les demander. Pourquoi, et pourquoi on a besoin de les citer dans la Mida? Pourquoi t'as besoin de les citer? Pourquoi j'ai besoin de demander à Kadosh Baruch Hu de m'envoyer la Parnassa? De toute façon, je vais aller travailler. Pourquoi j'ai besoin de demander à Kadosh Baruch Hu Mashiach? De toutes les façons, il va l'envoyer.
Mais même si je demande pas.
Pourquoi j'ai besoin de demander à Kadosh Baruch Hu la guérison? De toutes les façons, bah, s'il a décidé de guérir, il guérira.
Il faut qu'il accélère.
Parce que, non, le but, justement, c'est de réaliser, de structurer mes besoins.
C'est de remplir.
Donc, une fois que je réalise mes besoins, c'est seulement une fois que j'ai réalisé de ce que j'ai besoin, qu'après, par derrière, je peux dire, maintenant que j'ai réalisé ce que j'ai besoin et que je suis ton obligé, maintenant que j'ai réalisé ça, maintenant, je te demande à Kadosh Baruch Hu, je t'en prie, pardonne-moi. Hacham, nous, tu sais, j'ai fauté, j'ai fait ci, j'ai fait ça, la vérité, je comprends que...
Bon, là, ça va.
Il n'a aucune raison de me sauver. Mais
là, ça passe.
Eh oui.
Il fallait te pousser pour que tu donnes la bonne explication.
Les autres t'ont compris avant, déjà.
Oui, mais je pense que gêné, moi.
Non, c'est parce que toi, d'accord, tu es un peu plus miséricordieux.
Voilà.
Et regarde, et c'est celui qui est fonctionnaire depuis 40 ans, qui est payé par l'État tous les mois à 3000 euros.
Il a fait des habitudes, lui.
Il est difficile pour lui de comprendre ce que c'est que la miséricorde.
Très difficile.
Parce que lui,
parce qu'il souffre pas.
Il est payé par l'État. Bien sûr. Qu'il arrive à la fin du mois, il va dire...
C'est pour ça qu'on a dit, il faut casser les habitudes.
Je suis fonctionnaire, je suis payé à la fin du mois.
Tu as raison. Une personne comme ça, les gens qui ne souffrent pas dans la vie,
ils ne se remettent pas
en question. Ils se remettent pas en question.
Quand tu lui parles de Dieu,
ils vont mourir bête.
Mais non, il est entré dans son fauteuil.
Il va mourir bête.
Il regarde les infos.
La différence de celui qui prend des risques.
Pour lui, sa vie, c'est métro, boulot, dodo. Bon, d'accord, pourquoi pas.
Comme,
là, c'est sur la Parnassa, mais c'est des
gens. Ah non, c'est pas que la Parnassa.
Là, il a dit, c'est pour le...
Oui, oui non, mais bon, c'est l'image qu'il veut dire, c'est qu'il y a des gens pour qui, Baruch HaShem, tout va bien.
Tout
va bien. Tout va bien. La Parnassa, Baruch HaShem. Les enfants, Baruch HaShem.
Et son beau-frère, il est chirurgien, donc il va se faire soigner. Il a mal aux dents, son frère, il est dentiste.
Il est couvert. Il est couvert.
En plus, ses parents, il a hérité de 500 000 euros.
Mais celui-là, il sait pas si c'est une épreuve, donc il sait pas si c'est la miséricorde.
Quelque part, on est dans une épreuve.
D'accord.
Continuelle.
Absolument.
Donc une personne comme ça n'aura jamais...
Je pense que celui-là, au contraire, celui-là, il a tout ce que tu dis. Et en plus, il est capable de remercier Dieu. Il est peut-être au-delà.
Oui, mais non, ce que je veux dire, non, c'est qu'il a raison. Une personne comme ça, en général, il va remercier Dieu par routine. Il réalise pas l'enjeu de la vie. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est quand la dernière fois qu'on a remercié avec Kadosh Baruch Hu de respirer. On est riche, on respire.
Moi, je connais beaucoup de gens qui disent à leurs enfants, écoute, fais tes choses, réussis dans tes études, fais ta vie, marie-toi, avec des enfants, etc. Et puis plus tard, quand ça ira bien, quand tu seras fait préparer ta retraite, etc., intéresse-toi des questions de Dieu, etc. Après. Mais d'abord, connais ta situation. Je te jure.
Je devrais changer d'amis. Alors,
je vais changer d'ailleurs.
C'est pas peut-être, mais c'est...
Donc, c'est ce qu'on a expliqué ici.
C'est pas comme ça qu'il faut éduquer les enfants.
Veshuv, en yenika le'achitsonim, ba'asitra achara, me'ashpat, allez messieurs, dernière ligne. Veshuv, en ashpa'a, en yenika le'achitsonim, ba'asitra achara, me'ashpat, et tata akanal. Parce qu'entre temps, quand nous on a chômé, et qu'on a cassé la lettre Yud, la lettre He, la lettre Vav, la lettre He, chez Mishmor, d'accord, on a tout cassé, qu'il nous reste que la dernière pointe. Entre temps, il y en a qui n'ont pas chômé. Les forces du mal, elles n'ont pas chômé. D'accord. Et elles, le dernier hé, mais elles se sont servies. Elles continuent à se servir. Et plus on continue avec la vérote, et plus elles se servent, elles sont refaites. D'accord. Fait qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est très simple. C'est que lorsqu'on va faire une vraie teshuva, et qu'on va demander à Kadosh Baruch Hu la miséricorde, la grâce présidentielle, on va être régénéré entièrement. C'est-à-dire que si on arrive à faire une bonne teshuva, et on arrive à réellement demander sincèrement à Kadosh Baruch Hu de vouloir devenir quelqu'un de nouveau, et bien après, à un certain moment, on peut avoir un sentiment qu'on a changé. Sans qu'on comprenne vraiment comment. Pourquoi j'ai changé?
Parlons du dernier.
J'ai pas vra...
C'est les autres qui disent t'as changé.
Mais oui, mais je comprends pas comment j'ai changé. Pourtant, j'ai rien fait de particulier. D'accord? Demandez aux gens qui font teshuva. Les gens qui font teshuva. Nous, on le voit extérieurement, on croit que c'est sûr qu'ils ont fait des grands efforts. Mais pour eux, ils se disent, j'arrive pas à comprendre comment j'ai fait. Quand ils réfléchissent en arrière, quand ils essaient de faire un flashback comme ça sur les 15-20 dernières années, ils disent, j'arrive pas à comprendre comment j'ai pu faire ce chemin. C'est-à-dire qu'il y a toujours un caractère.
Oui, quand tu t'installes dans le chemin, finalement, tu reviens.
Non, mais c'est pas forcément.
Une habitude.
C'est pas si évident, parce que justement, parce qu'on a expliqué que dans la majorité des cas, si tu suis la logique, t'as pas de chance. Bien sûr.
Ça ne tient pas qu'à la logique.
D'accord. Il y a quelque chose qui dépasse la logique. Il y a une aide qu'on se rend pas compte. Heureusement d'ailleurs qu'on se rend pas compte, parce que sinon on aurait été perdu. Mais il y a une aide d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce qu'on va développer la semaine prochaine.
Mais n'empêche qu'il y a une certaine habitude à un moment donné qui vient s'installer.
Eh ben non. Dès que l'habitude vient s'installer, c'est fini, c'est la mort.
Bah voilà, c'est là pour ça qu'on développe.
D'accord. Le oui, c'est ce que je vais expliquer. C'est que le feu qu'on sent quand on est en train de faire teshuva, c'est les Yudgum et les Arachamim. C'est pas un feu qui est logique. C'est, on sent qu'on est animé d'un feu.
Ah oui, il y a rien de logique.
D'accord. On a envie d'avancer. Ce feu, c'est exactement lié à la volonté. C'est une volonté, voilà, c'est une volonté. Cette volonté provient directement des Yudgelom et des Tarachamim. C'est ça la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. C'est la grâce présidentielle d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi? Tu mérites pas, mais vas-y, je vais te booster. C'est ça.
Donc, si tu mérites pas, c'est-à-dire qu'il n'a ni la fait teshuva, ni la demandé.
Non.
Non.
C'est pas ça. Ça. C'est-à-dire qu'il a fait teshuva, mais qu'on ne peut pas faire teshuva.
Le réveil d'en haut, c'est pas ça?
Mais justement, logiquement, on ne peut pas faire teshuva.
Non, mais il a fait les efforts, je veux dire.
D'accord. Le gars, il vient, excuse-moi, je donne un exemple. Le gars, il vient, il est rentré avec un pistolet ici, il a tout cassé. Après, il vient avec un bol de peinture, avec un petit peu, il dit voilà, je suis venu pour réparer. Donc, de qui, il a tout cassé. Je fais quoi avec ça?
Moi,
je le balance à la figure, reprends-le.
Il a amené le pot de peinture.
D'accord. Mais attends. Mais ce pot de peinture, je le balance à la figure. Je dis, mais je fais quoi avec ça?
Il a même pas le pot de peinture, il continue à braquer.
Là, Kadosh Baruch Hu, il dit bon. Kadosh Baruch Hu dit bon. Donne ton pot de peinture, on va se débrouiller. Avec la pointe du Houd, il va tout refaire.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que même s'il a pas le pot de peinture, est-ce que la pointe du Houd, elle peut tout refaire? Est-ce que c'est ça qu'on appelle le réveil d'en haut?
On a dit oui.
Non. T'es obligé d'avoir cette pointe. Tout le monde a cette pointe.
Lui, il vient pas avec sa peinture.
Oui.
Il a tout cassé. Et il a tout cassé, d'accord. Et tout d'un coup, un jour, ça lui vient comme ça, ça chauffe, etc. Il n'est pas venu avec sa peinture, il est venu sans rien. Est-ce que c'est ça qu'on appelle le réveil d'en haut?
Oui.
Et est-ce que la pot de peinture...
Mais pareil, le réveil d'en haut, c'est qu'on va lui amener un pot de peinture.
Oui, on va lui amener, mais lui, il n'a pas fait d'effort.
Oui, tu as raison.
Et le réveil d'en bas, c'est quand
il vient pas, ce réveil d'en bas. Le réveil d'en bas.
Non, il est momentané.
Bon, mais c'est un autre sujet.
Bon, d'accord. Sujet,
donc, si je peux, si on va résumer juste en un mot ce qu'on explique aujourd'hui. Voilà, en un mot. En un mot, ce qu'on a étudié aujourd'hui, un seul mot, d'accord? Ce qu'on a expliqué aujourd'hui, c'est que, une fois qu'on a pris des claques, une fois qu'on a réalisé dans Perek Zayin, au chapitre 7, qu'on est loin du compte, c'est seulement là qu'on peut réellement demander la miséricorde à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'en un mot, quand ce qu'on comprend d'ici, c'est que ne peut demander la miséricorde seulement celui qui a réalisé que c'est la dernière issue. Ça veut dire que le voleur qui a fait les 400 coups, et qui dit, bon, j'ai prévu, je vais demander la grâce présidentielle, il va me sauver, c'est pas grave. Il n'aura jamais ses grâces présidentielles. Dans quel cas il aura des grâces présidentielles, c'est quand le président va voir que le gars il s'en sert. Et que c'est vrai que juridiquement on peut rien lui faire, mais que il regrette. Mais juridiquement c'est trop tard. Il ne peut rien faire. Le gars il a tué 100 personnes. On va pas faire en vivre, d'accord? Là, qu'est-ce qu'on te dit? C'est là que, une fois que la personne a réalisé que c'est la solution, on dit bon, vous avez compris ce que vous avez fait? Ok, maintenant on discute.
Tu as compris David?
D'accord?
Tu peux encore t'en sortir.
Bezrat Hashem, on reviendra dessus la semaine prochaine. Bon, on a passé longtemps à l'oral aujourd'hui, mais attention, on reverra sur la semaine prochaine. Je pense qu'on aura encore un ou deux cours sur le Perek Zayin.
Tout n'est pas perdu.
Perek Zayin, pardon.
Ça me rassure.
Voilà.
Mais bon.
Oui. Non, mais c'est important. C'est-à-dire, est-ce que vous avez vu la technique de Edmond Razaken? C'est qu'on va utiliser la déprime, d'accord? On va essayer dans le bien. On va essayer de récupérer, justement, on va dire, un Kadosh Baruch Hu. Bon, puisque j'ai compris que je suis perdu, alors maintenant, c'est le seul à m'aider. Et là, c'est la grande explosion.
T'as remarqué, le Razaken aussi, il part en haut et pour arriver.
Non, il part du bas pour nous monter plutôt.
Moi, j'ai.
Non, mais il est
moi,
il nous met en bas pour nous monter plutôt. C'est ça plutôt ça.
Il monte quand il est vraiment en bas.
C'est pas la première fois.
Oui, mais justement, la logique, ça serait l'inverse. C'est vraiment. Nous mettre en haut pour nous montrer
c'est Dieu qui nous habitue à ça. Non, quand t'as dit Anaché, Moshiana, sauve-moi. Pourquoi sauve-moi? C'est lui qui m'a mis dans le pétrin. Pourquoi il t'a mis dans la galère? Parce qu'il veut que tu lui dises sauve-moi. C'est exactement ce qu'on a expliqué ici. Bon, on reverra ça la semaine prochaine. C'est pour aujourd'hui.